Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode numéro 2 de Démocratie Participative. Comme d'habitude, je vous rappelle nos coordonnées pour nous joindre, le cas échéant. Notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète. Démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je procède maintenant à la présentation de nos membres, une équipe bien solidifiée maintenant. Je commence avec Pierrot qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine une nouvelle fois. Merci à toi Pierrot d'être avec nous.
Merci de m'inviter, bonjour à toi et bonjour à tout le monde.
Magdav est également avec nous cette semaine. Merci à toi d'être là, Magdav.
Salut les amis, le plaisir est pour moi.
Fulbert, dont les travaux sur sa cave sont à l'arrêt maintenant, peut-être est-ce le froid, mais il est quand même avec nous pour nous faire partager sa sagesse de vieux soldat, Fulbert.
Oui, bonjour Gandalf, bonjour à tous.
La piscine est gelée. En fait.
La piscine est gelée, voilà. Pas de water polo prévu. Pas de water polo prévu. Et Derek est avec nous. Fulgurance de l'éternégritude. Son éminence est là pour apporter son savoir, la sapience traditionnelle de l'Afrique mystérieuse.
Oui, enfin, mystérieuse de moins en moins. Les mystères sont de plus en plus révélés au plus grand nombre.
C'est vrai.
Par l'intermédiaire de la France, là, surtout. Bonjour à tous et loué soit l'Éternel.
La France fille aînée de l'Éternel. Hein, donc.
Oui, avec le Vatican. Il y a une bataille en ce moment. Hein, c'est...
Guerre d'influence. Alors messieurs, avant de commencer cette émission, je tiens à remercier au nom de toute l'équipe de Démocratie Participative nos mécènes qui nous permettent de continuer. Nous recevons des dons très régulièrement, la plupart sont anonymes, mais certains donateurs veulent bien se manifester pour qu'on les remercie à l'antenne. Donc comme je le dis souvent, n'hésitez pas hein, si vous le souhaitez à vous manifester et à nous envoyer un petit message qui sera lu à l'antenne, exclusivement les dons par crypto-monnaie via Monero. Cette crypto-monnaie offre un anonymat total. Donc c'est sûr que Monero est un tout petit peu plus complexe à utiliser que Bitcoin, mais c'est nécessaire pour garantir à tous ceux qui veulent nous soutenir un anonymat complet. Alors.
Et puis Tristan, si tu nous écoutes, tu peux donner, il n'y a pas de problème,
oui,
on
ne
voudra pas. En Monero, aussi, en Monero, en Monero.
En Zincoin peut-être aussi.
Alors, comment dirais-je, Sturm Brigade Charlemagne qui nous écrit. Bonjour à tous, je vous envoie ce mail suite au don de deux Monero que je viens de vous faire parvenir. Je compte vous en faire régulièrement pour vous remercier de l'excellent travail que vous faites. Après avoir eu quelques réticences lors de mes premières écoutes de vos émissions il y a 2 ans de ça, j'ai été surpris par la grande qualité générale du site et des intervenants sur le plan de la réflexion et des connaissances. Vous êtes la thérapie de choc dont les Blancs ont besoin pour retrouver l'amour de ceux qu'ils sont et la haine de ceux qui les détruisent. En vous souhaitant tous mes vœux pour cette année et en attendant que Pogrom se fasse. Merci pour tes vœux, cher Shturm Brigade. C'est grâce à des dons comme ça, avec des vœux attenants de cette même teneur, qu'on avance, hein, je pense qu'on peut le dire. Si des personnes se sont manifestées et que par hasard on n'a pas lu leur courrier à l'antenne après un don, c'est peut-être tout simplement parce que le courrier est passé en spam, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas à vous remanifester, hein. ça peut arriver. Hein. Et auquel cas, toutes nos excuses. Donc merci à toi, Shturm Brigade. Alors messieurs, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Premier courrier. Bonjour à tous, chers amis. Salutations au brave Gandalf et à toute l'équipe qui, depuis maintenant plus de 4 ans, me donne le sourire tous les mardis en permettant d'évacuer un minimum le stress accumulé dans ce pays du tiers-monde qu'est la France. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est une histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps et qui, je le pense, va vous faire réagir. J'ai attendu de nombreux mois avant de vous en faire part au vu de la gravité de la situation qui s'est abattue sur moi et sur ma famille. Aussi, je ne rentrerai pas dans le détail de certains éléments afin de garantir ma sécurité. Vous allez voir, ce qui m'est arrivé est très similaire à ce qui est arrivé à la famille Lestevin, histoire dont vous aviez pu parler à l'époque en 2017. Alors, je propose à nos intervenants éventuellement de commenter au fur et à mesure de la lecture, parce que le courrier est assez long. Donc plutôt que de le lire d'un coup, vous pourrez réagir comme ça à brûle pour point. Donc ce courrier est divisé en deux parties. D'abord, je relate ma scolarité dans une ville remplacée. Ensuite, je raconte le drame qui est arrivé à ma famille. Voilà donc. Depuis ma plus tendre enfance, ma famille et moi vivons dans une grande ville banlieue, totalement infestée par la crasse négro-mort islamisée. C'est très simple, il y a 20 ans, j'étais l'un des seuls blancs dans mon école primaire. J'ai vécu une scolarité catastrophique. La racaille afro-maghrébine a toujours exercé tout son poids pour harceler et tirer vers le bas les petits blancs de la ville. Au collège, les professeurs ne pouvaient plus faire cours et beaucoup s'absentaient pour dépression nerveuse, tant les racailles de l'établissement étaient infectes. Je ne compte plus le nombre de nègres ou de bougnoules ayant frappé des professeurs toutes ces années. Pire que ça, à l'intérieur du collège, tous les trafics étaient autorisés et de nombreuses racailles se baladaient armes à la main dans la cour de récréation. Les tabassages étaient quotidiens et visaient la plupart du temps des élèves blancs. Des viols sous forme de tournantes ont eu lieu dans mon collège, orchestrés par des nègres dans les vestiaires du gymnase. La sortie du collège était le pire moment, car c'était là que se retrouvaient toutes les racailles pour marquer leur territoire. Tous les soirs, une cinquantaine de négros morts squattaient pile devant l'entrée du collège, armes à la main, souvent des couteaux ou des tasers uniquement pour faire pression sur les profs ou les élèves qui n'étaient pas dans leur camp. Le camp des nègres, je me rappelle très bien de parents d'élèves craignant pour leurs enfants harcelés à l'école, venir chercher leurs enfants à la sortie du collège et se faire menacer, voire tabasser par cette bande ethnique particulièrement sadique, probablement du fait de la proportion de bougnoules dans la bande. J'ai moi-même été agressé et racketté à 12 ans par trois racailles de plus de 20 ans qui harcelaient et frappaient les blancs, donc à la chaîne. L'affaire fut classée sans suite par la police. Au lycée, c'était encore pire. Malgré l'épuration qui a permis à deux tiers des racailles de partir en CAP ou en bac pro, la proportion de nègres et d'arabes était toujours aussi importante. Pour autant, j'ai pu y remarquer une évolution très notable. Les crouilles avaient grandi et leurs aspirations pseudo-spirituelles aussi. En effet, mon lycée était et est encore un énorme repère de salafistes. C'est très simple, les musulmans faisaient leurs prières dans l'enceinte de l'établissement, que ce soit dans le gymnase ou les couloirs, sans que personne ne s'en offusque. Les moukers voilés ne retiraient pas leurs voiles et venaient habiller de longues robes noires qui touchaient le sol en mettant des gants. Les musulmans refusaient de dire bonjour aux koufars et tous séchaient les cours lors des derniers jours du ramadan ou de l'Aïd. Par ailleurs, ils prenaient tous un malin plaisir à exercer leur influence de toute leur force afin d'essayer de convertir de jeunes petits blancs en quête de spiritualité à leur religion moisie du désert. D'ailleurs, quelques salafistes issus de ce lycée sont partis en Syrie faire le djihad, ce qui me rappelle aussi que le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, beaucoup de bougnes se réjouissaient ouvertement de la tuerie et tous ont unanimement décidé de ne profaner et perturber la minute de silence.
Bien que je oui, ne... alors tiens, c'est ouais. J'ai
oui, c'est l'anniversaire.
Là...
Oui.
Ouais, c'est l'anniversaire et il y a quand même deux trois types qui osent dire ce que nous, on savait enfin pertinemment à l'époque, c'est que dans les banlieues, la minute de silence n'a pas été possible à respecter. Je crois d'ailleurs que il y a 2-3 juifs dont je crois que c'est des gens qui sont plus ou moins affiliés à Ben Soussan, je crois, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait les territoires perdus de la République. À ce moment-là, on ressorti un bouquin avec un petit peu de polémique qui s'appelait comment ça va être la France soumise ou la France, un truc comme ça. Du coup, de cette bande ont émergé des polémistes de droite, judéo-compatibles, disons. Des gens comme... j'oublie leur nom, parce qu'ils sont tous remplaçables.
Ouais, des gens de néo-jacobins.
C'est ça, les néo-jacobins. Beaucoup de nanas.
Ouais,
hein, des polonies un peu plus dures, quoi. Enfin, on va dire ça comme ça.
Tu me vends du rêve, là.
Et donc... Ouais, je vends du rêve.
Et les polonies donc, en plus dures, bon.
Ils ont quand même dit ce que tout le monde savait, je crois même qu'on en avait parlé, que effectivement pendant les minutes de silence, ce qu'ils disaient c'était Allahu Akbar, hein, voilà.
Bon. Oui, ça me surprend pas du tout. Oui, c'est l'anniversaire des attentats de Charlie Hebdo 2015, mes vœux les plus sincères. Alors, je reprends le courrier. Bien que je ne porte pas Charlie Hebdo dans mon cœur, ce comportement était très révélateur de la complicité des jeunes bougnoules vis-à-vis de leurs héros, les djihadistes. Que ce soit au collège ou au lycée, néanmoins, tous les profs étaient de vulgaires agents de propagande. C'est simple. Dans tous les cours, on nous vantait le multiculturalisme de la ville, qui était le privilège d'avoir plus de 120 origines différentes en son sein. La propagande la plus subtile se diffusait notamment dans les cours d'anglais. En effet, sous couvert de cours de langue, les professeurs diabolisaient l'homme blanc en nous faisant apprendre sans cesse les histoires à dormir debout de Martin Luther Nègre King, de Nelson Mandela, de Rosa Parks, de Malcolm X et d'une autre poignée de nègres dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, les profs d'anglais étaient de gros branleurs. Une fois par trimestre, nous avions le droit de voir un film au lieu d'avoir cours et, bien évidemment, il s'agissait de films de propagande sur l'apartheid, les Indiens d'Amérique, les aborigènes ou la ségrégation aux USA. Les profs d'histoire n'étaient pas en reste. Je me rappelle de ma prof de première qui nous avait fait tout un cours hors programme sur l'antisémitisme lors de l'affaire Dieudonné afin de nous sensibiliser sur le fait que les juifs étaient gentils. Je me rappelle encore de sa phrase « Dieudonné, tout comme Hitler d'ailleurs, passe son temps à dire que les juifs dirigent les médias, mais c'est faux ». Vous êtes capable, vous, de me citer ne serait-ce qu'un seul juif qui contrôle une rédaction aujourd'hui en France ?
Oui.
Ruth Elkrief est auvergnate, messieurs. Arrêtez de dire du mal des gens.
Il y a beaucoup de juifs qui sont auvergnats en ce moment. C'est la mode.
Oui. Mais ça, c'est dû à la migration du centre de gravité français dont j'ai parlé après l'avènement de la Troisième République. Et le décret Crémieux. Donc... Alors, donc, elle pose la question hein, que je viens de citer. Une rédaction aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me citer un juif dans une rédaction voilà. Et ne nous laissant pas le temps de répondre, enchaînant avec « Bon, bah, vous voyez bien, ce sont des mensonges antisémites ». Le fait le plus marquant, lorsque j'étais au lycée, c'était de voir à quel point l'administration était aussi bien phagocytée par les salafistes que les indigénistes. En effet, dans le cadre d'un projet lecture, mon lycée a accepté pendant une année entière de loger, tout frais payé, une négresse pseudo-écrivaine indigéniste. Cette grosse négresse, financée par mon lycée, était passée la même année à la télévision pour se vanter de la disparition de l'homme blanc en France. Alors,
Ouais.
Voilà, je pense que y a des indices, vous pouvez retrouver éventuellement la cliente. Nous avions d'ailleurs tous dû acheter son recueil de nouvelles pro-diversité, pro-clandestin à la FNAC, afin d'engraisser cette négresse putride et orgueilleuse. Bref, ma scolarité fut horrible, aussi bien que toute mon enfance et adolescence dans cette ville remplie de racailles zonant entre les nombreuses mosquées, les kebabs, les bars à chicha et les stades de foot neufs et tout frais payés par le maire socialiste. Deuxièmement. Maintenant, j'aimerais revenir sur le drame qui s'est abattu sur ma famille. Il y a quelque temps. Un soir, j'ai trouvé mon petit frère totalement tabassé par une horde de racailles à quelques pas de mon lieu d'habitation. Motif. Il était blanc et les racailles fraîchement arrivées dans la zone souhaitaient instaurer la règle que plus aucun blanc ne devait passer dans la rue perturber leur trafic de shit. N'écoutant pas mes recommandations, ma mère, qui n'a aucune conscience des agissements des racailles de cité, a forcé mon frère à porter plainte et, comme je l'imaginais, ça s'est retourné contre nous. Les flics ont fait savoir aux racailles en question qu'une plainte avait été déposée et c'est là que les représailles ont commencé. Tous les soirs, pendant plusieurs jours, la même bande de racailles maghrébo-nègres a attendu mon frère à la sortie du lycée en souhaitant le tabasser. Plusieurs autres plaintes ont été déposées par ma mère à la police qui, de par sa naïveté, a cru que ça allait changer quelque chose. Au contraire, les racailles ont continué et un soir, elles sont tombées à 10 contre mon frère, le menaçant de mort et tentant de le frapper. Heureusement, il a réussi à s'enfuir en courant ce jour-là. Ma mère est directement allée voir la directrice du lycée pour recueillir son aide et stopper la situation. Réponse de la directrice: si je fais quoi que ce soit, il y aura des émeutes de la part des élèves qui vont se montrer solidaires de ces jeunes, donc les agresseurs. Donc je ne peux rien faire pour vous, voyez ça avec la police. Ainsi, voyant que ni la directrice du lycée ni la police n'allaient faire quoi que ce soit pour épargner la vie de mon frère qui risquait tôt ou tard de se faire planter par l'un des bougnoules de la bande, j'ai pris l'initiative d'aller l'escorter tous les soirs à la sortie du lycée afin de dissuader les racailles de s'en prendre à lui. Manque de bol, dès le premier jour, je tombe sur le chef de la bande attendant mon frère téléphone à la main pour appeler le reste de la bande. Craignant pour la vie de mon frère, je décide alors d'aller bousculer gentiment l'arabe et de lui dire de laisser définitivement mon frère tranquille. L'arabe, qui s'est littéralement chié dessus devant plus d'une centaine de personnes à la sortie du lycée, était au bord des larmes en levant les mains et en disant « Et si pas moi, j'ai rien fait, si pas la faute, c'est les autres !» Connaissant la propension à la vengeance chez les Arabes, je décide alors de ne pas le défoncer comme il aurait dû l'être et d'en rester sur cette bousculade afin de clore cette histoire. Malheureusement, c'était loin d'être fini. Le soir même, un commando d'une trentaine de personnes défonce ma porte d'entrée cagoulée et armée. Je n'ai pas pu tout voir, mais ils avaient des armes à feu, des battes de baseball, des machettes et des couteaux, ainsi qu'un chien qui aboyait. Tous sont rentrés dans mon domicile et ont commencé à tout détruire en criant mon nom, prêt à sauter par la fenêtre. J'appelle alors la BAC, dans des secondes qui m'ont paru interminables. Les racailles présentes en bas de chez moi tombent face à face avec ma mère et la menace de ne pas avancer le temps qu'ils m'embarquent dans leur fourgon si elle tient à sa vie. Néanmoins, comme ils ne s'attendaient pas à tomber sur elle, ils décident alors de faire machine arrière et de quitter ma maison sans me kidnapper. En état de choc, nous voyons arriver la BAC 5 minutes plus tard. Jamais ils n'arrêteront cette bande qui venait d'effectuer une tentative de meurtre sur ma propre personne. Escorté au commissariat par la police, un agent prend ma déposition et m'explique son impuissance. Nous ne pourrons rien faire, des choses comme ça arrivent très souvent. Cet officier m'a expliqué qu'il fallait que mon frère et moi quittions définitivement la ville afin de ne pas nous faire assassiner, car c'était bel et bien le sort qui nous était réservé. Plus jamais je n'ai remis les pieds dans cette ville et fort heureusement ma mère a pu assurer un déménagement, certes long et pénible, mais qui a fort bien abouti. Entre-temps, elle aussi s'est fait menacer par les racailles qui lui ont bien fait comprendre qu'ils étaient à ma recherche. Le pire étant que j'ai récemment appris que j'étais convoqué à la police pour violence volontaire concernant la légère bousculade avec le bougnoule qui s'est empressé d'aller porter plainte alors qu'il était le chef de la bande de dealers à l'origine de la tentative d'assassinat contre moi. De leur côté, les racailles, elles, sont très tranquilles. Aucune interpellation, aucune sanction, aucune procédure judiciaire, rien. Si ça se trouve, c'est moi qui vais être condamné face à eux, ceux qui ont essayé de me tuer. D'autant plus qu'ils n'hésiteront pas à me faire passer pour un raciste, alors que j'ai juste protégé ma famille quand la police ne le faisait pas. Aucun de mes proches n'en a tiré de conclusion ou a eu de l'empathie envers moi, qui ai dû vivre caché à cause d'une horde de racailles qui a mis une fatwa sur ma tête. C'est d'ailleurs toujours le cas. Ma mère, qui pourtant a beaucoup souffert de cette histoire, continue de voter Macron. Mon père, boomer infidèle qui n'a pas élevé ses enfants, continue quant à lui de voter Mélenchon et n'a jamais ressenti la moindre empathie ni envers mon frère ni envers moi. Sa femme, ma belle-mère, boumeuse narbonoïde, s'est quant à elle foutue de ma gueule quand je lui ai expliqué que j'étais en danger de mort en répliquant que je faisais du cinéma. Je précise que cette pétasse n'a jamais vécu en cité. À l'heure actuelle, elle a déménagé à Toulouse et fait de l'associatif pro-migrant. Je suppose qu'elle doit se faire baiser comme la salope qu'elle est. Je livre le courrier tel quel. Je pourrais continuer encore très longtemps, mais tout ça pour vous montrer à quel point dans cette histoire nous avons manqué de soutien. De la police qui n'a pas assuré notre sécurité et qui cherche à me convoquer, à la directrice du lycée, en passant par la mairie socialiste qui a eu vent de cette histoire et qui n'a pas bougé le petit doigt pour nous aider, à nous reloger jusqu'au cercle proche de ma famille. En conclusion, la France des banlieues représente aujourd'hui un enfer racial d'autant plus lorsque l'on vit cet enfer depuis sa plus tendre enfance. Les Blancs y sont chassés parce que Blancs et personne ne leur prête main forte. La police ne protège pas les Blancs et n'intervient que lorsque celui-ci, par légitime défense, a osé répliquer pour éviter de se faire tuer. Pour finir sur une note positive, grâce à cette histoire, j'ai quand même pu trouver quelques amis qui pensent comme nous et qui m'ont aidé à retrouver le moral ces derniers temps malgré ce drame. S'ils m'écoutent, je les salue et je salue aussi toute l'équipe de DP que j'admire énormément. Merci pour tous, pour tout. C'est signé Saruman le Blanc. Alors parfois, nous avons effectivement des courriers qui sont très, très, très lourds, très difficiles, mais aussi très parlants, très pédagogiques et qui permettent à nos auditeurs d'apprendre des choses qu'ils ne liront certainement jamais, en tout cas pas à la première personne, dans la grande presse ou même dans la presse régionale, et encore plus difficilement sur YouTube. Quand je parle de YouTube, c'est des témoignages visuels, bien évidemment, pour des raisons de sécurité. Donc, merci d'abord à Saruman, le Blanc, de nous avoir écrit, de nous avoir raconté cet épisode extrêmement difficile de sa vie personnelle. Il faut quand même beaucoup de courage, vous comprendre ça, hein, après avoir été victime de quelque chose comme ça, c'est très difficile de tout remettre en ordre dans son esprit, de le coucher par écrit, et d'accepter d'en parler aux autres. Et s'il le fait, c'est, je pense, pour appeler une prise de conscience, et pour nous rendre plus forts, tous collectivement, hein, pour... qu'on fasse un peu le point sur la situation. Donc, merci à Saruman pour ce témoignage. Et maintenant, je vais directement solliciter nos intervenants. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Qui veut commencer et sur quel point ?
Alors, écoute, moi, j'ai vraiment ému par le courrier de l'auditeur. Parce qu'on sent vraiment qu'il en a chié. Hein. Et je pense que son cas n'est pas isolé. N'est pas du tout isolé. C'est même quelque chose qui est assez fréquent. Et il n'y a pas longtemps, il parlait du comportement des flics. J'écoutais un podcast qui est fait par Arte, qui était très intéressant et qui faisait l'interview d'un flic des stupes, très certainement un officier, et on sentait dans ses propos non seulement une forme de sympathie pour les dealers, voire même une forme d'admiration, et on sentait également en lui une tendance politique type Antifa. Et je veux dire, le type parlait de la magnifique organisation des dealers et trouvait ça formidable comment dire, de déceler le trafic de drogue. C'était bien. Pour lui, c'était une forme de jeu de chat et la souris, et c'était sympa. Lui-même, oui, moi je les admire parce que c'est des entrepreneurs. Ils se débrouillent, ils sont courageux, ils travaillent, c'est très bien. Jamais le type nous a expliqué ce qu'est la réalité du trafic de drogue, de l'enfer que pouvaient vivre les riverains, et d'ailleurs, quelle que soit leur race, là c'est même pas les blancs, non, non, ils s'en foutaient, au contraire, pour lui c'était normal, après tout, bon voilà, ces gens vivent là, ils doivent faire avec. Et je pense que malheureusement, surtout parmi les officiers, dans la police, beaucoup de gens pensent comme ça. Après tout, oui, ben voilà, il faut faire avec la loi du plus fort, et c'est pareil pour les profs. Voilà, moi j'ai toujours vu chez les profs, une forme de respect devant la racaille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont 30 ans, Tony Montana est devenu une forme de mythe. Je ne sais pas
Oui,
si.
à rebours, parce que c'est un vieux film en plus.
Ouais, c'est un vieux film, mais. Tout d'un coup, il y a une forme de tonimontanisation des esprits, entre guillemets, où le dealer est devenu une forme de nouveau héros, alors que c'est juste une merde. Bon.
Alors sur ce qu'a vécu, tu dis, oui, il a été seul.
Et il a été seul contre lui, il y avait le communisme français en face. C'est ça la machine infernale. C'est-à-dire que les profs, qui sont des fonctionnaires, qui sont censés, en tout cas, faire leur boulot au niveau éducatif. Bon, on a vu ce que c'est. On t'oblige à acheter des bouquins de négresse. Alors déjà, les négresses, le concept de négresse, bon, les énormes négresses lambda, c'est assez répugnant. Mais des négresses qui écrivent des bouquins, c'est encore pire. Hein, pour demander à ce que les blancs meurent un petit peu plus vite parce que ça dérange qu'en reste.
N'ayez pas peur, ça va se passer.
N'ayez
pas peur. Tu croirais le fermier qui caresse le lapin, n'aie pas peur. Quoi. N'aie pas peur, ça va bien se passer.
Le serpent dans le livre de la jungle. Et confiance.
Donc il faut absolument rien, le type menacé de mort, donc parle les joyaux de la République que sont les nègres et les bougnoules. En l'occurrence là, surtout des bougnoules, de ce que j'ai compris, qui font... ça m'étonne pas du tout, l'espèce d'expédition punitive là. C'est l'Algérie, quoi. Hein,
c'est ça.
On y arrive. Les flics, voilà. Alors ça, c'est des gens que nous apprécions beaucoup ici à démocratie participative. C'est-à-dire que bon, c'est des gens qui ont tapé sur des honnêtes gens, qui ont crevé des yeux. On en a parlé.
Qui continue d'ailleurs.
L'année dernière, on recommence. Peut-être qu'on va avoir des primes. C'est comme les oreilles des taureaux. Eux, c'est les yeux, tu vois. Ils vont se trimballer avec des colliers d'œil. Je sais pas quel est le projet de ces gens. S'ils comptent que les choses vont durer indéfiniment, être des enculés comme ça. Mais toujours est-il, donc, c'est pas étonnant. Ces gens ne foutent rien, donc, sauf pour te faire chier. Hein, ils sont payés par nous. Hein, je rappelle, ce sont des fonctionnaires. Hein, c'est l'État. En théorie, de ce qu'on nous dit, c'est pour, c'est pour faire fonctionner l'État et que. Qu'on ait des services publics. Services publics, oui, non, c'est pour nous racketter. Hein, la seule fonction que ces gens ont, enfin, ces gens, je suis encore assez. Je suis magnanime aujourd'hui, on va les comparer à des personnes, c'est de te racketter sur les routes parce que tu as roulé. À 115 au lieu de 110, parce que maintenant sur des autoroutes tu dois rouler à 110.
C'est nouveau,
sur la plupart des autoroutes, en tout cas dans le sud, tu as des départements là, tous les Alpes-Maritimes.
C'est vachement utile d'avoir des bagnoles qui roulent à 220 avec des routes qui sont en ligne droite à 3 voies, tu vois, où tu peux bourrer.
Ah oui, oui, c'est
110,
tu t'endors.
Quel manque d'ambition ? Pourquoi pas mettre ça à 90 ? Ça me paraît beaucoup plus...
Ah, mais ça, sur Marseille, c'est 90. C'est-à-dire qu'avant, il y a une trentaine d'années, c'était 130. C'est passé à 110, et maintenant, c'est 90. Donc, tu as les trois voies, l'autoroute à Marseille, c'est 90. Voilà, c'est comme ça. Je crois que le périph', c'est pareil maintenant, d'ailleurs. Sur Paris, c'est le même topo. Et donc, pourquoi pour t'extorquer encore du fric. Hein. Ces gens-là ne sont pas encore assez payés. Ils t'extorquent du fric. Donc, non seulement ils t'extorquent, ils vivent de ça. Hein. Ce sont des gens qui sont des ratés. Ils n'ont pas de métier, ils ne produisent rien. Ce sont des merdes. Ils sont juste là pour venir te faire comme des sangsues, mais comme les coupeurs de route. Le flic, c'est un coupeur de route.
Ouais, en fait, c'est le coupeur de route officiel, de la République.
C'est
voilà.
Un nègre. Ce sont des gens qui ont des qualités. Ils sont pas plus efficaces que des nègres, voilà. Autant de trans... oui,
bah, ouais. Alors non, mais là je suis intéressé par ta comparaison, notamment pour les motards de la route qui arrêtent les gens pour leur prendre du cash.
Ils servent à ça et si tu vas les voir, si tu vas porter plainte contre des bougnoules, ils te prennent de haut. Donc le type là, une trentaine de nègres d'arabes sont rentrés chez lui. Voilà, il y a des Sans suite, il n'y a rien qui se passe.
La BAC est comme... La BAC est venue, hein. La BAC est venue en 5 minutes.
Ils sont venus quand même. C'est vrai qu'ils sont venus.
Ça veut dire qu'il y a quand même, il y a quand même un service public. Parce que je peux te garantir que tu as des coins de France. Je veux dire, tu peux faire, tu peux regarder sur ta montre. Hein. T'appelles en même temps les pompiers et les flics. Les flics, enfin plutôt la gendarmerie hein, dans les zones rurales, c'est 45 minutes.
Ah oui,
et
oui,
les
oui,
pompiers,
oui.
15 minutes. Hein.
Ah oui, oui, non.
Oui, ça
non,
se passe comme ça maintenant.
Comment dire, si tu veux, ils sont venus, les types étaient partis. Bon, payer des types pour qu'ils viennent pour rien, bah autant ne pas les payer du tout. Quoi, hein. Ces gens-là sont dispensables. Hein, voilà, moi, je suis pour expulser les flics avec les nègres, qu'on les envoie en Afrique. D'ailleurs, ils y vont. Hein. Ils font ça, et maintenant, la gendarmerie fait la police au Sahel, au Sénégal, tout ce que tu veux, au Mali. Bah, c'est le...
Ouais, il y a des missions de formation.
Ouais, c'est le pouvoir magique des Français de parler à des nègres. Puisqu'ils sont très bien avec leurs nègres, qui s'en occupent très bien. Tu as parlé des stupes, hein, le flic des stupes qui admire les dealers. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là se fréquentent. Hein, on a vu les types à Lyon. Ces gens, déjà, ils se voient tout le temps. Et puis, ils palpent. Hein, et la plupart des flics des stupes palpent. Ils sont copains comme cochons. Enfin, j'étais l'autre jour chez un ami. On les voyait. Il me dit, viens voir la fenêtre. On regardait en bas. Les flics venaient voir les dealers qui étaient en bas dans les bagnoles. Ils se faisaient la bise, putain de merde. Ils allaient se faire la bise. Voilà. Et parmi les trois flics, t'avais une nana, un blanc et un bougnoul. Voilà. Et ils faisaient tout ça. Toute la petite équipe, ils étaient copains comme cochons. Voilà.
Ouais, bon, après, les mecs, ils sont obligés de se tisser un peu leur réseau d'indic et d'informateurs.
Ouais, enfin bon, là.
Oui.
Mais. Non, mais.
C'est de la sous-traitance, là.
Qui informe qui, là?
Il y a une admiration. C'est-à-dire, ça va au-delà de. Ils se tapent la bise. C'est qu'en fait.
Oui, bien sûr. Bah,
je pense qu'il y a. Bah, voilà, on le sait, il y a des flics. C'est des antifas. Hein, faut être très clair. Dans la base, il y a des mecs qui pensent plus ou moins comme nous, mais généralement, quand tu montes les échelons, aux échelons des officiers, enfin, on va dire aux échelons intermédiaires, c'est des antifas, aux échelons supérieurs, c'est des francs-maçons. Voilà, je crois qu'il y a un commissaire sur deux qui est franc-mac et ça doit être quelque chose comme...
Commissaire divisionnaire.
Ah, voilà, enfin bon, c'est quand même énorme.
C'est 1 sur 4 chez les commissaires et 1 sur 2 dans les commissaires divisionnaires.
Donc, Moi, je pense vraiment qu'il y a une admiration de la racaille et que les racailles sont pour les flics plus respectables que,
ouais, mais
que
c'est pas du
que
tout
les types qui subissent le trafic de drogue.
C'est pas du tout surprenant. L'affaire notre auditeur, lui il y peut rien. Là c'est un contexte. Lui il est c'est une victime à 100%. Mais la leçon à retirer de ça, c'est précisément que le droit, c'est la force. Moi, j'ai jamais cru au baratin libéral et démocratique comme quoi le droit avait une valeur en lui-même. Non, le droit, c'est la force. C'est la force qui dicte le droit, pas l'inverse.
Oui, la force prime le droit, comme dirait ce bon vieux Bismarck. Non,
mais tout à fait. Oui. Je veux dire, tout le reste, c'est du flan. Et tout s'ajustera toujours en fonction du rapport de force. Tout, absolument tout. Et c'est ce qu'on voit. Finalement, c'est un exemple très représentatif de ça, c'est qu'en fait, tout le monde s'adapte au véritable rapport de force sur le terrain. C'est-à-dire que la police sait qu'elle peut pas. Elle peut pas aller attraper les mecs et tout, parce qu'ils ont pas les mecs, pas les moyens, pas la volonté, les juges ils suivent pas, etc. Donc les types...
Parce qu'au niveau politique, ils sont bloqués, de toute manière. Voilà.
Oui, mais déjà pour commencer, donc...
Non mais... Regarde, l'auditeur nous dit, dès qu'il a vu le rab, il est allé lui tirer les oreilles. Il est emmerdé par l'État. Le problème, c'est quoi là-dedans?
Oui.
C'est que tu as l'ogre, la République, l'État français, tout ce que tu veux, l'espèce de machin.
Ce qui était très bien décrit par Nietzsche comme le monstre froid.
Voilà, voilà.
C'est le monstre froid qu'est l'État.
C'est ça, ce truc-là est en train de... C'est du communisme, hein, voilà.
Non, mais c'est plus que ça, parce que, si vous voulez, l'État, c'est... Alors, quand on dit l'État, vous voyez, c'est une espèce d'abstraction, etc. Non, l'État, c'est des gens. Moi, j'insiste toujours sur ce point, il faut toujours être réaliste, il faut avoir une approche réaliste. Quand je dis réaliste, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'intéresser la traduction pratique, concrète, que l'on peut nommer de l'objet qui est étudié. Donc quand on parle de l'État, c'est pas une abstraction, ce sont des gens. Des gens, des copains, des coteries, des groupes, voilà. Il faut creuser. C'est qui, quoi, comment ? Ces gens ils défendent leurs intérêts, d'accord ? L'intérêt de l'État, c'est pas l'intérêt du peuple. Et en France, et c'est ça tout le problème avec l'idéologie étatiste qui existe en France depuis... C'est très ancien, hein, mais on va dire qu'avec Louis XIV et puis ensuite la Révolution française et le jacobinisme, ça a vraiment pris un très fort ascendant. Les Français pensent qu'on peut réduire l'État au peuple. Et vous avez toute une série de pique-assiettes qui sont des ratés, qui sortent des grandes écoles d'administration, des grandes écoles de l'État, etc., qui deviennent des fonctionnaires, et qui parlent comme ça. Et pareil pour les journalistes, ils parlent comme ça.
La France, c'est quoi ? C'est les valeurs de la République, voilà.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens, si vous voulez, qui parlent pour leur paroisse et qui parlent au nom des autres. Et qui disent, voilà, l'État ceci, l'État cela, le peuple ceci, le peuple cela. Attends, le peuple est distinct de l'État. C'est ce qu'ils ne disent jamais. Et eux cherchent à tout... Ils sont prêts à tous les compromis, à toutes les compromissions, pour engraisser leurs potes, engraisser leurs maîtresses, que sais-je. Alors quand vous êtes un gueux, hein, c'est-à-dire vous êtes un simple... un plébéien, et que vous n'avez pas de relais, vous êtes livré à vous-même. Et si vous allez chatouiller les oreilles des flics, hein, mais qu'est-ce que vous foutez là, etc., c'est... Là, la machine se retourne contre vous. Parce que vous avez empêché les flics de digérer. Vous les avez dérangés dans leur sieste.
Donc, oui, oui. Il y a autre chose aussi. C'est que en France, théoriquement, et je dis bien théoriquement, avec l'État jacobin, le droit est le même partout. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Quand tu vis dans un département où les tribunaux ne sont pas engorgés, donc où, on va dire, les magistrats peuvent, on va dire, accumuler du travail, où il faut leur fournir même du travail, on va pas juger de la même façon que dans un département où les tribunaux sont totalement engorgés. Parce que la même affaire de trafic de drogue, selon qu'elle soit jugée en Seine-Saint-Denis ou dans le trou du cul de la Creuse, elle ne va pas du tout être jugée de la même façon. Tu vois, elle va être jugée de façon beaucoup plus sévère en Creuse que à Bobigny, pour une raison très simple, c'est que on va pas prendre le même temps et que très souvent, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris relativement récemment, c'est qu'il y a beaucoup plus de vices de procédure dans les tribunaux qui sont engorgés parce que, en fait, les choses se passent beaucoup plus vite. Et que les baveux, les avocats connaissent très très bien les failles du truc. Donc c'est pour ça en fait. C'est à la base, quand on a voulu faire en sorte que le droit soit le même partout, il y avait un peuple qui était quand même globalement cohérent. Enfin, il y avait des différences, mais tu peux pas juger la faune de Saint-Denis de la même façon. Tu juges la France périphérique. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
C'est là que l'État-nation devient une escroquerie. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un État-nation si t'as pas de nation. Et de facto, ça, c'est un État cosmopolite et clientéliste. Plus exactement, ethno-clientéliste, de plus en plus, et corrompu. Parce que on a bien décrit là tous les aspects de la corruption, c'est-à-dire que tu as un État qui est inefficient vis-à-vis des citoyens, qui sont aussi des contribuables d'ailleurs, mais qui sont des individus. Parce que c'était ça le contrat démocratique, comme on dit, républicain, enfin démocratique en général, c'est que l'individu a un contrat avec l'État, hein, et qui passe notamment par l'impôt. Et donc, comme on dirait plus vulgairement, on est censé en avoir pour son argent. Sauf que quand vous avez des groupes organisés, ces groupes organisés sont organisés en lobby, font pression, et soit par la force, soit par l'influence, donc on va dire le lobby juif agit par l'influence, le lobby algérien agit par la violence, mais la conséquence est la même, c'est-à-dire que ces gens-là parviennent à exercer une pression sur les pouvoirs publics qui leur permet de ne pas de pouvoir se dispenser de répondre face à la loi. Or, les blancs qui en France, qui sont des individualistes et qui croient à ces conneries démocratiques, libérales, égalitaires, machin, tout le monde est égal devant la loi, comme ils sont dans cette matrice mentale-là, ils se font toujours pigeonner, tout le temps. Ils se font pigeonner, repigeonner, repigeonner. Ils payent leurs impôts, ils comprennent pas. Ils disent, comment ça se fait, je paye mes impôts, etc. Et ils s'étonnent. Et ils s'étonnent de s'étonner. Bon. Sauf que le problème qu'on a, moi je pense qu'on ne va pas résoudre les contradictions internes de ce système-là, c'est fini. Donc l'État va périr dans sa forme dite républicaine. Enfin, il a péri même déjà pour l'essentiel. Donc toute la question, c'est quelles vont être les mesures, les contre-mesures qui vont être adoptées par les Blancs pour récupérer leur retard, pour que ce qui vient de se passer avec notre auditeur ne se reproduise pas, ou en tout cas se reproduise de moins en moins souvent à mesure qu'on avance dans le temps. Eh bien, c'est de changer de prisme psychologique. Il va bien falloir, à un moment donné, qu'un nombre croissant de Blancs bascule dans le prisme tribal, dans le prisme collectif de l'autodéfense de groupe. D'accord ? Il va falloir qu'on divorce de l'État. En gros, c'est ça. Il va falloir qu'on divorce de l'État, qu'on arrête de croire que l'État va nous torcher le cul à tout bout de champ. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était ça le deal originel. C'est vous reniez votre tribu, vos affiliations particulières, et l'État prend le relais et est là, le cas échéant, pour vous apporter son soutien. Mais, au prorata de quoi, vous êtes loyal vis-à-vis de l'État et vous le servez à chaque fois que vous avez, qu'on vous le demande. Or, aujourd'hui, l'État a abandonné les gens. D'accord ? L'État français a abandonné les Français. C'est devenu un État cosmopolite, corrompu, mafieux, de plus en plus faible d'ailleurs et divisé de l'intérieur, contrôlé par toute une série de lobbies, de réseaux, etc. Et le français de base, le français de souche, est totalement sorti de l'équation. Donc, comme on dit très souvent, mais c'est de plus en plus vrai, le français de souche est un citoyen de seconde zone en France. Je dirais même plus, ce n'est plus un citoyen. Un Algérien est un citoyen en France, parce qu'il a des droits tangibles. Un clandestin en France a des vrais droits. Vous n'avez qu'à voir avec quelle virulence le moindre clandestin qui pose les pieds en France est défendu par des magistrats, par des associations, par des avocats, par des médias. Ce sont des gens qui ont des droits. On le voit, vous le sentez. On vous le fait comprendre qu'ils ont des droits. Hein. Ça ne peut pas vous échapper. Hein. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas ignorer que des clandestins en France ont des droits. C'est aberrant, mais c'est ça. Le français de souche, qui a des tas de problèmes au quotidien, lui, ses droits, ils sont complètement oubliés.
Il a le droit de payer ses impôts.
Voilà, vous devez casquer, mais... Donc, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il va quand même falloir que les gens comprennent cette nouvelle équation. Vous voulez des droits, vous avez raison. Mais pour avoir des droits, il faudra que ça soit soutenu par la force. Une force collective. Et vous allez devoir vous comporter exactement comme les autres. Vous ne pourrez pas y couper. Donc ça veut dire organisation, ça veut dire solidarité, ça veut dire autodéfense, etc., etc. Mais le prisme doit complètement changer, la perspective mentale des Français de souche doit complètement changer. Tant qu'on est des légalistes, on perd. Tant qu'on est des légalistes dans un système comme ça, on perd. C'est ce que vient de nous dire notre auditeur, c'est l'exemple par excellence, quoi. Par excellence. Vous ne gagnerez pas, vous comprenez, un autre auditeur, là, regardez, ça c'était frappant. Sa mère, vous voyez, la boumeuse, vous voyez, ma mère aurait réagi exactement comme ça, d'ailleurs. Sa mère croit encore au contrat social, hein, au pacte républicain. Hein. J'ai un problème, je vais voir les flics. Je dépose plainte, tout va rentrer dans l'ordre. Non, ma bonne dame. Vous êtes dans une France libanisée ethniquement, racialement, totalement corrompue, les gangs ethniques foutent la merde en toute impunité, allez voir les flics, c'est aggraver le problème. C'est aggraver le problème. Vous allez déverser un bidon de gasoil sur l'incendie. C'est ça la réalité. Donc les nouvelles règles sont écrites par les bandes violentes. Bah, faut s'adapter.
Moi, c'est pas la première fois que j'entends ce type de témoignage ou que je le lis, ça arrive fréquemment et notamment à des gens qui peuvent être plus âgés. Hein. Je veux dire, il y a des cas comme ça où les gens ont essayé de contacter la presse, où une bande de racailles se faisait prendre, enfin, comment dire, souvent des commerçants à une époque. Qui alarmait la presse locale parce que ils se faisaient vandaliser leurs magasins trop fréquemment. Aucun n'a eu gain de cause.
Bien sûr que non.
Ils ont tous dû partir, tous. Tous. À la place, qu'est-ce qui se passe? Le local qui a été vendu une bouchée de pain est récupéré par un commerce de d'allocation. C'est comme ça que ça se passe. C'est du pur rapport de force. Mmh.
Je pense que les blancs vont devoir. Quand on dit les blancs, c'est générique, il faudrait une minorité déterminée, mais il faut que des minorités commencent à se former pour s'autodéfendre. Pour se prêter main forte.
Ah, c'est une évidence. C'est une évidence.
Ah ouais, là, il y a.
Nous sommes rien seuls.
Mais il faut vraiment. Et ça passe par des. Je pense que ça passe par des vieux usages, hein, mais ça passe par des serments, etc. Je suis pas quelqu'un. Je suis pas. Excessivement porté sur l'esthétique, mais ça passe par des vrais engagements personnels vis-à-vis d'un groupe, et vous avez besoin d'avoir des gens en qui vous avez une totale confiance. J'y crois beaucoup. Parce que sinon, vous êtes livré, c'est la loi de la jungle. Il va bien falloir que les gens comprennent ça. Donc, oubliez ces conneries sur le vivre ensemble, la République, la légalité, les magistrats, hein, tous pourris. Non, oubliez tout ça. Les flics. Les flics, on peut les accabler aussi dans leur fonction quotidienne, mais il y a aussi simplement le fait, j'ai eu des témoignages déjà dans cette direction, c'est simplement qu'un flic qui voudrait bien faire, il sera en porte-à-faux avec son administration. Parce que les autres, les collègues vont dire, putain, il fait du zèle, il nous fait chier, lui. C'est quoi ton problème et tout, vas-y, pourquoi tu te mets pas dans le mou, On va vous demander de vous coller sur la norme du m'en-foutisme ambiant. C'est ça qui va se passer. Si vous êtes il y a des flics qui font leur boulot. Mais je veux dire, la tendance c'est ça la force de la démocratie, c'est la tendance à la médiocrité. Ça ramène tout le monde vers une moyenne merdique. Et c'est ce qui se passe dans ces administrations. Pourquoi, dans un environnement qui devient de plus en plus pourri, racialement, criminellement, pourquoi veux-tu faire du zèle? La police n'a pas le moyen d'inverser, par exemple, la courbe démographique, dans la mesure où les pouvoirs publics, le gouvernement, ne veut pas l'inverser, elle l'aggrave. Donc les mecs sont un peu comme un canard dans un bain, ouais, ils flottent, le niveau monte, ils flottent, c'est-à-dire ils s'adaptent. Ils s'adaptent à la merde. Et donc ils vont choisir de plus en plus, en fonction de leurs priorités, ce qu'ils veulent attaquer, ce qui est peut-être le plus spectaculaire, le plus payant au niveau professionnel, ou ce que vont leur demander les politiciens de faire. Mais s'exposer pour sauver un mec qui est dans une embrouille de lycée, même s'il est menacé de mort, ils en ont rien à foutre. Faut être clair, hein. Faut être clair.
Non, mais c'est... Je veux dire, même au collège, avec des mômes qui ont entre 11 et 15 ans, même à ce niveau-là, dans ces collèges, les adultes de la République sont impuissants.
Bien sûr.
Même avec l'aide d'assistants sociaux, de flics qui sont censés faire la morale auprès des gamins, même là, tu vois, même là, les adultes sont totalement impuissants. Alors qu'on parle quand même de gamins de 11-15 ans. Donc... C'est sûr qu'au niveau d'un département entier, avec des adultes, avec la CAM, avec les armes, l'État est totalement impuissant. D'ailleurs, ce qui va se passer, je pense, à court terme en Seine-Saint-Denis, pour l'instant, on parle de fonctionnaires qui demandent des primes un petit peu comme les militaires qui sont en OPEX. Hein. Pour moi, c'est le même principe. Ce qui va se passer, c'est que les organisations communautaires vont demander du fric à l'État. Mmh. Elles vont le demander de moins en moins indirectement. Hein, ça va pas être oui, on veut une subvention parce que on veut créer une école ou on veut envoyer nos gamins en stage de poney ou on veut créer une école de cirque. Non, ils vont demander du pognon à l'État parce que sinon ils font tout. C'est tout. Hein. Sinon ils font.
Est-ce que c'est pas déjà le cas d'ailleurs?
C'est déjà le cas. Mais il y a quand même un théâtre, il y a quand même une forme de simulacre où ils font ça officiellement, enfin pour le bien de la République. Hein. C'est pour ne pas faire sécession. Ils le disent. Alors, ils utilisent leur aile la plus radicale, entre guillemets, la plus sécessionniste. Ils disent, oui, voilà, on a besoin, en fait, de l'argent public pour ne pas que les masses tombent dans le radicalisme. Mais ça, en fait, c'est un jeu de dupes. Parce que c'est une évidence que même, on va dire, les acteurs, entre guillemets, qui affichent une forme de modération, ont besoin des franges radicales. Parce qu'elles font du chantage. Elles font du chantage à l'État pour réclamer du pognon. Voilà, pour payer des animateurs qui vont, soi-disant, répandre les valeurs de la République. Alors qu'on sait très bien qu'en fait, ils ont juste besoin de pognon pour bouffer, c'est tout. Et pour gratter du pognon sur le goy.
Fulbert, après la lecture de ce courrier, est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose?
Ouais, il y a tellement de choses que l'on pourrait dire, mais bon, c'est assez large. Mais disons que moi, j'ai l'impression hein, qu'en fait, les États, pas uniquement l'État français, considèrent déjà que la société est devenue multiculturelle et qu'elle doit être gérée comme une société multiculturelle. En fait, on a eu, il y a longtemps, pas mal de signes avertisseurs. Je vais vous en donner un qui a l'air un peu ridicule, peut-être, mais quoique. Je me souviens, lorsqu'il y a eu... Moi, j'ai une référence, c'est l'Afrique du Sud. Quand je vois comment ça s'est déroulé, comment a vécu ces dernières décennies l'Afrique du Sud, je vois un sérieux parallèle avec les sociétés européennes d'aujourd'hui. Et il y avait un signe, moi, qui m'avait frappé, c'était il y a, je ne sais pas moi, 20 ans, 15-20 ans, oui, qu'on a commencé à baptiser des rues en Belgique, mais certainement en France aussi, des rues Nelson Mandela. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, oh là là, sans rigoler, c'est pas une blague, hein. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et tout se déroule dans le sens d'établir des sociétés multiculturelles, et nos États agissent déjà comme tels. Je peux vous donner des tas d'autres exemples qui sont belges ou voire même internationaux. Je pourrais vous dire, je sais pas, allez, je vais y aller un petit peu fort comme ça, à l'arrache, hein. Vous avez un, je l'ai déjà expliqué, sorry si je répète, mais ça va être dit en deux mots, un premier ministre belge qui fait tomber son gouvernement pour signer le pacte de Marrakech, vous savez en quoi consiste plus ou moins ce pacte, hein, et 7 mois plus tard, il est assis au siège de la, enfin, il obtient la présidence du Conseil de l'Europe. Ça, c'est un. Je peux vous en donner un autre qui est grossier, qui est, enfin, gros, je veux dire, pardon. C'est le coup d'État qui arrive au Vatican en 2013 avec le renversement de Benoît XVI, parce que on peut raconter ce qu'on veut. Il y a eu un coup d'État là-bas à ce moment-là qui visait à placer Bergoglio sur le trône du Vatican. Et quoi? Un an et demi, 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Au début du printemps ou à la fin de l'hiver 2014-2015, disons début du printemps 2015, vous avez l'énorme vague de migrants qui s'abat sur l'Europe, et vous avez Bergoglio qui est là pour sucer les pieds des nègres et faire du multiculturalisme à tout vent. Il y en a d'autres, il y a plein de gros exemples. C'est parce qu'on oublie un peu trop vite, il y a trop d'informations qui circulent, surtout des informations inutiles, et les gens oublient, mais on en est là. Et nos États nous dirigent déjà comme des peuples qui n'ont plus d'âme, des peuples qui ne sont ni africains, ni européens. Ah, ils sont républicains, à l'occasion. Mais c'est tout, quoi.
Et alors, d'accord, donc toi tu dis, en gros, aucune surprise, ce sont des États, en fait, qui sont devenus des États consubstantiellement, idéologiquement... acquis, on va dire, à la libanisation ethnique, à la mise en minorité des Blancs, ou de toute façon hostile. Donc tu dis, pourquoi vous étonner, tout est dans l'ordre. Et donc, le deux poids deux mesures est inhérent au système. C'est oui. Ça que tu nous dis. Tu dis, voilà,
c'est ça, exactement.
C'est inhérent, c'est pas un dysfonctionnement, c'est pas une erreur, ça peut pas être corrigé, c'est la condition même de l'existence du système, le deux poids deux mesures racial, c'est ça que tu veux dire, hein.
Ah, c'est d'évidence même, puisqu'on descend au plus bas niveau dans l'administration. Vous avez parlé de la police, de la gendarmerie, enfin des forces de l'ordre, et vous voyez que ces gens n'ont absolument aucune volonté manifeste de protéger leurs frères, leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, leurs voisins, leurs compatriotes. Non, ils n'en ont rien à foutre, et c'est vrai, et ça se voit avec, entre autres, l'affaire des manifestations qui durent maintenant depuis un peu plus d'un an. Ça devient de plus en plus clair. Et plus le temps avance, plus les manifestations se déroulent, et plus la violence policière se révèle. Donc, on voit ça avec les armées aussi. Je pourrais aussi vous donner un exemple formidable là-bas. Vous savez, pendant les années 90, c'était le cas dans l'armée belge, et c'était certainement le cas dans l'armée française et dans d'autres armées européennes, où les militaires recevaient comme, je ne vais pas dire instruction, mais plutôt comme doctrine, d'être des soldats de la paix avec des missions humanitaires plutôt que des missions militaires. Donc cela montrait, encore une fois, là je pourrais me dire que ça n'a pas un grand rapport, mais cela montre que les militaires ont accepté. Ils sont devenus des forces d'intervention humanitaire. On le voit au Mali, hein. Même les Belges sont au Mali, alors. Et en fait, les types ont marché. Pourtant, une armée, elle devrait avoir l'âme de sa population. Il faut rester logique. Vous me direz, ça, c'est une armée politique. C'est-à-dire qu'il y a son âme, son point de vue, et une haute conscience de sa mission. C'est ça une armée politique. C'est pas une armée qui est ce n'est pas une armée qui est au service d'un gouvernement, et parfois même pas d'un État. Mais nos armées ne sont plus cela, nos forces de l'ordre ne sont plus cela non plus. Et nos gouvernants, c'est eux qui ont mis tout ça en place.
Ah, je trouve que ton point de vue est très pénétrant, Fulbert. Très pénétrant. C'est une bonne analogie avec l'armée. On voit qu'il y a une cohérence dans l'évolution générale du système. Et ce par quoi c'est important de souligner, c'est que ce par quoi passe notre auditeur n'est pas du tout fortuit, mais logique. Mais logique.
C'est l'évidence. Si tu permets, j'aimerais ajouter une chose. Moi, je te donne à 150% raison. Quand tu te poses la question, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas encore de groupe qui s'organise, qui au moins, pour le moins, vont réfléchir, parler, s'entre-protéger et parfois agir jusqu'à certaines limites pour commencer, mais oui, là il y a quelque chose qui devrait être fait. Or, on a amené les gens à un tel individualisme, pas de gauchiste, hein, c'est l'individualisme de gauche, qui détruit justement la collusion qui pourrait se faire entre voisins, entre parents, entre compatriotes. Et tout ça est foutu en l'air, et avec la complicité de pas mal de gens qui sont des abrutis, hein, évidemment.
Je crois qu'il y a vraiment une plaie dans le monde blanc, à notre époque, hein, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est extrêmement fort, très fort, et l'attitude générale aujourd'hui, c'est de dire « si ça tombe pas sur mes chaussures, c'est pas mon problème ». C'est ça l'attitude générale aujourd'hui chez les Blancs. Ce n'est pas l'attitude chez... Alors, ils ont leurs problèmes entre eux, hein. Mais quand il s'agit de taper sur les Blancs, tous les bougnoules sont d'accord. Tous les Nègres sont d'accord, tous les Roms sont d'accord. Ils veulent tous en découdre avec les Blancs, aux frais des Blancs.
Et surtout tous les Juifs.
Et surtout tous les Juifs. Ils sont tous d'accord là-dessus. Alors, entre eux, ils se foutent sur la gueule, ils se battent, ils se... Mais quand il y a le Blanc dans l'équation, ils sont tous d'accord pour nous haïr. Et nous avons chez nous un phénomène totalement inverse, où en fait, dès qu'il s'agit d'aimer les autres, tous les Blancs sont d'accord. Dès qu'il s'agit de jouer contre son camp, tous les blancs sont d'accord. Et là, ça va pas. Et la diabolisation, ce qu'ils appellent le racisme, dans la qualification de l'idéologie dominante, hein, ce qu'ils appellent le racisme, en fait, c'est simplement le fait pour les blancs de jouer pour leur équipe. Ce qui est criminalisé aujourd'hui. Et tout est fait par le système pour empêcher les blancs de jouer pour leur propre équipe. Alors, les noirs peuvent jouer pour leur propre équipe. Et en plus, au sein des noirs, toutes les sous-équipes, hein, je veux dire, les musulmans, les animistes, les ivoiriens, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Pareil pour les arabes, les musulmans, bon. Mais pas les blancs. Et c'est ce paradigme psychologique, comme je le disais, qu'il faut changer, qu'il faut complètement inverser. Ce n'est pas facile, parce que c'est une révolution culturelle, c'est une révolution culturelle, qui suppose de quitter l'ère démocratique, de quitter l'ère de la prospérité qui prévalait en Europe quand l'Europe était d'après-guerre, donc l'Europe d'après-guerre, l'Europe d'après 1945, quand la prospérité prévalait, que les gens ont pu avoir pour seul et unique objectif, on va dire, le confort matériel, donc de se créer, on va dire, de créer les circonstances nécessaires à leur bien-être personnel, et aujourd'hui on est en train de basculer dans autre chose. D'ailleurs, on rentre dans une zone d'inconfort. On arrive dans l'inconfort, là, on le voit bien. Hein. Y a souvent ce sondage qui est cité, je ne sais pas où il en est en 2020, mais je pense que ça... Je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, ça s'aggrave, mais on sait qu'aujourd'hui, les nouvelles générations disent « Oui, on va moins bien vivre que nos parents. » Donc, le progressisme, vous savez, le progrès, le mythe du progrès, suppose d'être optimiste. Il faut être résolument optimiste. On voit le futur sous un angle, on voit le futur avec confiance. On voit le futur avec confiance et on se dit que de nouvelles opportunités vont automatiquement arriver, qui par la technologie, qui par le développement de l'économie, etc. Or, aujourd'hui, il y a un inversement radical qui se passe en Europe, et dans les sociétés occidentales, c'est l'inverse. C'est qu'il y a un pessimisme. Un pessimisme qui se renforce progressivement. Mais pas un pessimisme mythologique. Hein. C'est pas une construction intellectuelle. C'est sur la base de faits tangibles et vécus. C'est-à-dire que les gens sentent que c'est plus dur. Et au plan sécuritaire, c'est très net. Donc, quand on croyait dans le mythe du progrès et quand on était résolument optimiste, pourquoi se soucier de son voisin, finalement? Si les choses vont de mieux en mieux, bah, ça ira aussi de mieux en mieux pour mon voisin, quoi que je fasse moi individuellement. C'est pas mon activité personnelle qui va changer la donne. Donc il y avait cette idée de se laisser porter vers le courant, et ça bénéficierait mécaniquement à son voisin. Aujourd'hui, on est dans une attitude complètement inverse. Plus le temps passe, plus c'est pire. Plus c'est pire pour moi, plus c'est pire pour mon voisin. Donc là, à mon avis, il y a la formation, je pense qu'il va y avoir la formation d'une conscience collective pour essayer d'agir collectivement pour se protéger. Un réflexe d'autodéfense.
Ça se fera quand
l'État... À la dure.
Oui, non, mais tant que l'État a la puissance qu'il a maintenant, pas rêver, hein, il n'y aura pas grand-chose.
Je suis d'accord.
Il faut qu'on ait des libertés. Voilà, qu'on ait des libertés. Et ça pourra arriver si l'État a moins de fric à pomper. Parce que c'est bien beau de nous tirer du fric de tout le temps, pour tout le monde, hein, les nègres. Les allocations, les APL, etc. Les boomers pour leur retraite, attention, il faut les croisières. Tant que les gens arrivent à payer et que l'État tourne, ça ne bougera pas trop. Si ce truc-là commence à. La machine commence à sérieusement s'enrayer, effectivement, ben, il y aura une sélection, quoi. Il y aura une adaptation, un changement de situation.
Tiens, je voudrais bien faire une petite parenthèse, si vous le permettez.
Bien sûr.
Sur quelque chose qui a été dit plus tôt, qui était lié à ce qu'on vient de dire. À propos, c'était la critique par un des nôtres ici, je ne sais plus qui m'excuse, à propos de d'une forme de perversité des forces de l'ordre. Ça avait commencé grosso modo par ces policiers, ces gendarmes, etc., qui préfèrent dresser des contraventions pour excès de vitesse que de s'occuper de véritables problèmes, ce qui est parfaitement exact. J'ai vu à plusieurs reprises dans un passé qui n'est pas si lointain que ça, qui à mon avis continue, parce que pour tout dire, moi je ne me bouge plus beaucoup en voiture. Et j'ai observé quelque chose en Belgique qui était fortement critiqué, et ça allait jusque dans des commentaires en dessous d'articles de journaux, et je ne serais pas surpris que ça soit arrivé chez vous aussi. Imaginez un cas, vous avez une route importante ou une voie rapide, disons, ou une voie importante. Il y a des travaux. Ces travaux durent 2-3 semaines, peu importe, et les travaux se terminent. Mais les panneaux qui indiquent le danger dû aux travaux et l'indication d'obligation de ralentir à une vitesse très basse, on oublie de les enlever. Et il reste parfois, écoutez-moi bien, des mois sur place. Et des tas de gens se font couillonner par des radars vitesse parce qu'ils ne respectent pas les 40 km/h sur parfois une route qui est à 3 ou 4 voies, c'est-à-dire une voie rapide. Et ça, cet exemple que je vous donne, je l'ai vu. Je pourrais vous dire où, mais bon, ça ne sert à rien, quoi. Et voilà. Est-ce que vous avez aussi des cas aussi pervers en France ?
Alors, je pense que Derek va nous parler des récentes innovations françaises en matière de radar.
Ah oui, là, il y a une nouveauté, comment ça s'appelle, dans le terrorisme étatique, c'est de foutre des bagnoles qui se baladent, privées, hein, donc, on va déléguer, ça va être je pense que c'est une espèce de délégation de service public, comme ils appellent ça.
Oui, des fermages, donc.
Et du fermage, donc on va prendre.
Non, mais on arrive dans. Non, on est dans les sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire c'est des fermages, ouais. C'est-à-dire voilà.
Donc on a des types qui vont se promener dans des bagnoles avec des caméras partout, des capteurs partout, pour détecter tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que ça va détecter si tu as le téléphone, par exemple, si tu as ta ceinture, si tu te grattes pas l'oreille pendant. C'est hallucinant, quoi. La vitesse, tout. Moi, je pense d'ailleurs que ça va recycler certains chauffeurs qui n'arrivent pas à faire Uber. Je pense au Nègre, hein, par exemple. Les Bouilloules arrivent à avoir cette capacité-là à faire chauffeur en violant quelquefois, quand même, hein, des passagères blanches. De temps en temps, il faut qu'ils se soulagent. Mais les Nègres, bon, ils ont un petit peu de mal à retrouver leur route. Les Nègres au volant, c'est un concept assez. Assez spécial. Donc, là, peut-être de se balader au pif avec une bagnole, avec des capteurs qui font tout, ben ouais, on va avoir des nègres qui se promènent dans des nègres motorisés, une espèce de robot avec une partie humanoïde, une partie négroïde, qui vont venir, ben oui, te chercher le fric partout, voilà. partout, dès que tu connais.
Donc c'est ça, c'est la dissonance qui va progressivement s'établir dans l'esprit des Français de souche, c'est-à-dire que tu vois, c'est quand tu
l'État est là pour moi, etc.
Non, c'est pas ça, c'est-à-dire que quand toi tu vas solliciter l'État parce que t'as un vrai problème, tu vas te rendre compte qu'il se passe rien. Tu l'as dans le cul, voilà. En revanche, tu vas voir que l'intrusion gouvernementale par sa police et son fisc est de plus en plus forte. Et ce déséquilibre entre les deux va devenir de plus en plus intolérable pour les gens, parce qu'ils vont dire, mais on paye tellement, on exige tellement de nous, vous avez de plus en plus de règlements, d'interdictions, de surveillance, et à côté de ça, quand des gens, hein, pour ne pas les nommer, hein, on a parlé de la clientèle en question, la clientèle ethnique, violent la loi, ils en ont rien à branler, quand ils viennent me faire chier, ils m'aident pas. En revanche, ce qui est typiquement l'argument, c'est-à-dire t'as pas le droit de fumer dans un bistrot, si tu fumes dans un bistrot, t'as pratique. Moi je l'ai vu, hein, les flics qui attendent les gens à la sortie des bars pour vérifier si les mecs sont pas bourrés en sortant du bar. Bon, je veux dire, les mecs ont que ça à branler. Ils ont que ça à foutre, quoi, tu vois. Ils ont que ça à foutre sur leur commune. À côté de ça, t'as des gens qui se font brûler leur bagnole, etc. Hop, y a personne. Bon, les gens sont pas idiots, il y a une sagesse populaire qui se forme, mais ça prend du temps à se former, ça. Mais quand l'esprit populaire aura une idée bien arrêtée sur la question, il y aura une défiance qui sera très enracinée contre l'État. Et moi, ce que je vois, et là, je... peut-être qu'on va peut-être en finir sur ce courrier, mais je rebondis sur ce qu'a dit Fulbert avec ces manifestations, alors qui viennent de l'extrême gauche, enfin, qui sont diffuses, moi. Ça vient beaucoup de l'extrême gauche, t'as des syndicats, t'as des vieux, t'as des... Bon, il y a vraiment de tout, hein. Ce que je retiens de ces manifestations depuis plus d'un an, c'est en gros, il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui sont pas contents, ils sont pas contents pour plein de raisons, de tous les âges, bon, bref, peu importe, mais ils sont pas contents. Et je pense que ce mécontentement ne fait que s'amplifier. La défiance vis-à-vis de l'État ne fait que s'amplifier. Et je ne vois pas comment ne pas le lier à l'inefficacité de l'État et au volume de pognon qu'il prélève. Je veux dire, en gros, les gens en ont marre de raquer et de ne pas en avoir pour leur pognon. Hein ? Alors après, on peut fouiner dans le détail, hein, qui c'est qui gueule, qui est vraiment légitime à gueuler, mais grosso modo, ce que je retire de l'humeur ambiante, les gens en ont plein le cul. Les gens en ont plein le cul. Et ils en ont plein le cul de la gestion gouvernementale, et je parle pas des majorités, de la gestion étatique. Ils en ont plein le cul de ces gens-là. Et notre auditeur aussi a été victime de cette incapacité à gérer. Et je crois pas qu'on puisse réparer. Je le dis tout de suite. Mettez le Front National au pouvoir, ça sera pire.
Oui, ça sera pire. Retraite à 60 ans. Hein.
Non, c'est même pas ça. C'est même pas ouais. Ce que je veux dire.
C'est encore plus légaliste.
Non, c'est même pas ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si les gens sont réformistes, ils se disent bon, on joue le jeu du système, on vote. On va mettre une nouvelle majorité, mais la majorité, elle a vachement bien compris, elle a un super programme et ça va tout changer. Non. Qu'est-ce qui va se passer si vous mettez le Front National au pouvoir? C'est même pas la question de son programme. C'est que par principe, les 70% qui n'auront pas voté FN, je veux dire par adhésion, seront contre. Exactement comme Macron se tape 70% des gens contre lui parce qu'ils n'ont pas voté pour lui, ils ne l'aiment pas. Vous voyez, c'est cette impossibilité de gouverner le pays. Donc, et si vous mettez le FN en fonction, en 6 mois, si vous voulez, tous les fossés, les tensions, les refus, est considérablement aggravé. Et l'État est encore plus paralysé. Plus personne ne sait exactement où se situer, quel parti prendre, etc. Et le quidam au quotidien, il est encore plus abandonné. Parce que les autres sont trop occupés par la division interne. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, il n'y a pas de solution électorale, politique, institutionnelle, organisée. Ça n'existe pas. Et là, j'en reviens à ma marotte, il va falloir que les gens s'organisent.
Très juste. D'autant plus que On a un exemple qui est édifiant, outre-Atlantique. Vous avez Trump, considéré ouais. comme quelqu'un qui est contre, disons, les habitudes politiques des États-Unis qui arrivent au pouvoir. Il se retrouve en face de lui toute la presse qui lui crache à la gueule, à part un ou deux médias dans la masse, quoi, mais qui se perdent. Et ce bonhomme encaisse dans sa politique intérieure des assauts de toutes parts et par tout le monde. Imaginez maintenant, en France, que quelqu'un que l'on pourrait éventuellement, pour les naïfs, assimiler à Trump arrive au pouvoir. Prenons le cas Marine Le Pen ou un autre de son parti qui devienne président. Eh bien, il va se retrouver face aux mêmes gens. Toute la presse. Toutes les chaînes de télévision, tous les gauchistes, tous les abrutis, tous les sexuellement pervertis ou déviants ou tout ce que vous voulez. Et tous ces gens vont se liguer et faire une guerre sans merci, culturelle, politique, sociale et tout le tremblement face à Marine Le Pen. Qui peut encore croire après ça que Marine Le Pen aura les couilles et le coffre de résister et éventuellement de battre ces gens-là? Ben moi, j'y crois pas.
Exactement. Exactement. C'est tout le problème. Donc, au quotidien, vous pouvez pas remettre votre destin entre les mains des autres. C'est ça que je veux dire. Comme dans le cas de notre auditeur, vous voyez, il a pas pu, il a défendu son frère, il a payé cher, mais il a appris beaucoup de choses. Alors, peut-être, avant de faire une pause musicale, ce que je veux dire à cet auditeur, il faut pas rester... Alors, c'est traumatisant, ça c'est certain, mais il ne faut pas se... Parce que notre auditeur, dans son courrier, parle du fait de grandir comme une minorité, parce que les Blancs sont minorisés dans sa ville. Une minorité qui est clairement persécutée, traquée par toute la crasse, avec l'appui et sous les applaudissements, bien évidemment, de toutes les autorités constituées et autorités éducatives, hein, salut amical à l'éducation nationale, politique avec le maire, l'indifférence de la police, etc. Et donc, grandir dans cet environnement, d'être dans un état de siège psychologique permanent, ça peut vraiment faire basculer plus d'une personne dans la folie, quoi. Et notre auditeur a résisté à ça pendant toute sa jeunesse, et ensuite il vole au secours de son frangin, et il se fait expulser de sa ville. Parce que c'est ça la morale de l'histoire. C'est qu'un jeune Français, qui a aidé son frère, par solidarité avec son frère, s'est fait virer de sa ville natale. Par des bougnoules des nègres, et par l'indifférence des pouvoirs publics, qui ont totalement capitulé. Donc la guerre raciale, c'est pas une lubie. Le remplacement de population, c'est pas une vue de l'esprit. Ça, c'est du concret, c'est du vécu. Et c'est une injustice. Mais, c'est ce que je veux lui dire, faut pas rester sur ce sentiment, faut pas rester sur un sentiment d'amertume. En disant, merde, j'en ai chié et toute ma vie restera comme ça. Non! Non, au contraire. Finalement, notre auditeur s'en sort. Il s'en sort, il recule, mais il recule en bon ordre. Et il a sauvé la peau de son frère, à mon avis, d'une manière certaine. Alors maintenant, avec tout ce qu'il a appris, non seulement il va pouvoir déniaiser quelques collègues, et surtout ses gamins, il va pouvoir les déniaiser plus tard. Donc, c'est pas perdu. C'est de l'expérience qui va lui servir et qui va servir à ses proches et à ceux qui lui seront fidèles. Donc je crois que, dans, comme dit l'adage populaire, à toute chose malheur est bon. À toute chose malheur est bon. Et je crois qu'il peut en retirer beaucoup de choses positives pour lui-même. Et puis surtout, l'histoire elle n'est pas écrite, hein. Donc il y a des reculs, c'est pas pour autant que la guerre est perdue. On peut perdre des batailles, on perd pas la guerre nécessairement. Donc voilà, donc que notre auditeur ne reste pas sur l'abattement ou un sentiment d'échec ou un sans-faux. Il a certainement appris beaucoup de choses, nous avec lui d'ailleurs, grâce à son témoignage, mais il faut pas rester sur cette unique impression. La vie c'est long, l'histoire c'est long. De grands renversements peuvent avoir lieu, de petits renversements peuvent avoir lieu, donc qu'il aille de l'avant. Ça, je tiens à y insister. Alors messieurs, je vous propose de nous faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Allez,
okay. En avant. We'll be right back.
Revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode numéro 2, sans transition aucune. Rubrique numéro 2, autisme radical, et je vous propose de nous réjouir ensemble. De nous réjouir ensemble, oui, de nous réjouir, le Jura, en cette semaine, nous apporte un rayon de soleil, un rayon d'espoir. La chaîne de l'espoir, peut-être, c'est le journal Le Bien Public, bienpublic.com, qui nous rapporte le 10 janvier 2020 cette petite comptine que j'ai trouvée tout à fait édifiante et que j'ai voulu partager avec non seulement nos participants, mais surtout nos auditeurs. Alors, je la lis. Ce vendredi, une habitante de Dole, enseignante de 45 ans, est morte électrocutée à son domicile, rapporte Le Progrès. Un accident domestique lié à l'utilisation de son smartphone lors de son bain, elle a mis en charge son téléphone portable et l'a consulté. L'utilisation d'un appareil électrique branché est fortement déconseillée dans la douche ou le bain, car l'eau joue le rôle de conducteur. Le compagnon et le fils de la victime l'ont retrouvé inanimé à l'arrivée des secours. Elle était en arrêt cardiaque. Elle n'a pas pu être sauvée. Le SNUIP FSU, dont elle était responsable départementale et nationale, a salué une inlassable militante de l'école publique et laïque. Très impliquée dans le monde enseignant, reconnue de toutes et tous pour ses qualités de rigueur et de pugnacité, toujours à l'écoute et disponible pour accompagner les collègues du département, elle a œuvré à construire le Tous Ensemble, facteur pour elle et ses camarades de solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle. Alors, de qui suis-je en train de parler ? Je veux parler de Nathalie Psola. Psola, enseignante, comme vous l'avez vu, qui était donc une militante de longue date, hein, qui avait donc des engagements très forts pour l'éducation nationale, pour le vivre ensemble. Et je vous donne un autre article du Progrès, pardonnez-moi, du Progrès, qui date d'août 2019, le 12 août. Un collectif de citoyens dolois se lève pour venir en aide à la famille à Amadov en situation irrégulière qui sera bientôt reconduite à l'aéroport pour retourner en Azerbaïdjan. Ils étaient une trentaine du collectif dolois de soutien aux migrants vendredi 9 août devant le logement du couple Amadov, Camilla et Fikrat, et leurs deux enfants. La famille est scolarisée dans l'école où je travaille, témoigne Nathalie Psola, membre du collectif formé il y a 2 ans par 11 associations. Ce qui est important, c'est de montrer qu'ils ont un réseau de personnes qui les soutiennent, enchaîne Marie-Agnès Chalumeau, bénévole à la Ligue des droits de l'homme. Tous les recours épuisés. Venu d'Azerbaïdjan, le couple a traversé l'Europe avec leur fils avant d'arriver à Dole, où leur fille est née en 2015. Leur demande d'asile a été déboutée en 2017. Le dossier n'était pas assez riche de détails, indique Marie-Agnès Chalumeau. Sans aide de l'État, Fikrat a travaillé au noir sur les chantiers avant de se faire contrôler en février dernier. Le 30 juillet, une décision d'expulsion a été prise. La famille sera reconduite à l'aéroport d'ici le 13 août. Blablabla. Alors, je pourrais continuer hein, sur le même registre, mais bon, voilà, donc Nathalie Psola, enseignante, 45 ans, qui était donc une bénévole pro-migrant en faveur donc, de l'immigration irrégulière, de préférence quand même musulmane, d'Asie centrale, probablement d'Afrique et d'ailleurs, est malheureusement décédée après avoir fait des selfies d'elle à poil, hein, quand même, dans sa baignoire. Ça craint, non ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Écoute, elle a voulu imiter Claude François. Moralité, ouais. Le téléphone pleure.
Ouais. Non, il faut savoir apprécier les bonnes nouvelles, quoi. C'est vrai que c'est... Bon, déjà un prof de gauche qui a été une activiste pro-musulman, pro-migrant, enfin, pro-clandestin, pro-envahisseur musulman. Hein, on a du mal avec la...
Pro-tout.
On est parfois nous-mêmes touchés par la nouvelle langue, c'est ça, quoi. Hein,
ouais.
Malheureux. Donc, qui était partisane acharnée de l'invasion et qui probablement était une Une Pusienne qui a écarté les cuisses.
C'est garanti. Hein, de...
Il faut le dire.
Elle est,
sale
elle est,
pute.
Elle est dans son.
Ah, elle est crevée.
Non, en plus, il y a le syndrome de l'instapute. Non, mais franchement, tu prends ton bain, quoi. L'appareil électrique, la prise.
Oui, à la limite, tu sais, maintenant, les smartphones maintenant, sont étanches. Tu vois. Mais bon, tu prends ton truc, il tombe dans l'eau, c'est pas très grave, ça passe. Mais alors, si tu prends la prise, mais c'est pas. Bon,
voilà, c'est Darwin, quoi. Darwin Awards.
Non, mais pourquoi veux-tu qu'une. Bon, on va dire, ouais, mais regardez ces messages.
Non mais les
Aziz a... Ah Aziz, tu voudrais ouais. Que je t'envoie une photo de ma croupe. Oh oui, mais certainement. Oh. Attends, je me tourne et plaf.
Aziz, je me rase Aziz.
Je m'épile pour toi. Oh là là, putain. Et dire que ça a dû faire de la morale à tous ses élèves. Alors que c'est un foutu de comprendre les lois de la conduction d'électricité. Putain. Oh
j'invite quand même nos auditeurs à prendre en compte le fait que ça fera une retraite de fonctionnaire en moins.
Oui, bon.
C'est quand même le plus important là, dans cette histoire.
Je trouve ça réjouissant.
Alors permettez-moi d'adresser mes félicitations à EDF. Pour ce travail.
Oui.
Effectivement.
La CGT n'avait pas fait grève, n'a pas coupé l'électricité.
Merci.
Un service que nous apprécions. Voilà.
Ça pour, non, mais pour une fois que c'est du vrai service public, je vais pas crocher oui, dans la soupe. Hein, voilà, bon. Alors, oui.
Et prof quand même, quoi. Hein. Prof de 45 ans, donc... J'imagine bien la nana qui doit te faire des leçons de morale en permanence.
Avec la qu'est-ce que c'est bon.
J'espère qu'elle n'était pas prof de physique, quoi. Sinon,
ça prétend changer la configuration de ta société pour ton bien. C'est pas foutu de savoir qu'il faut pas utiliser des appareils électriques dans l'eau. Non, mais faut quand même le faire.
Alors, c'était peut-être un travaux pratique pour expérimenter la loi d'homme. Je sais pas. La tension, U égale RI, donc la tension égale la résistance fois l'intensité. Donc c'est une résistance. Une résistance fois...
Moi, je reste sur ma thèse. Hein. Je pense qu'elle envoyait des nudes à des migrants.
Oui.
Ouais, ou alors elle pouvait utiliser le vibreur de son téléphone, au choix.
Non, mais je suis sûr que...
Précision.
Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne saura jamais parce que l'appareil est tombé dans l'eau, il a pris un jus, il n'y aura jamais moyen de savoir ce qu'il y avait dedans.
Non, mais tout simplement, enfin, c'est quand même... Il y a des mecs qui font ça, mais... Enfin, moi, je vois dans la rue, les nanas ont les yeux vissés sur leur téléphone, c'est insupportable. Hein.
Ouais, d'accord, mais il y a des limites plus... dans la douche.
Je te dis, dans la douche... Il y a des nanas qui sont avec leur téléphone, parce que même quand le téléphone n'est pas branché, il y a eu des accidents de ce genre. Tu vois, parce qu'en fait, c'est pas la tension qui est dangereuse, c'est l'intensité. Dans les tasers, t'as une tension qui est très grosse, mais une intensité qui est très faible. Donc, techniquement, même avec du courant continu, enfin, qui sort d'une batterie, si l'intensité est suffisamment forte, Tu peux avoir tu vas te faire électrocuter, quoi. Et c'est déjà arrivé sur un téléphone qui n'était pas branché. Donc, non, moi, ça m'étonne pas, mais je sais qu'il y a des gonzesses, elles ont le téléphone, si tu veux, c'est en permanence. J'avais lu une étude qui disait que, je crois qu'en moyenne, l'adolescente moyen, l'instapute moyenne, consulte son téléphone dans la nuit une centaine de fois. Non, je ne déconne pas. Hein. C'est des notifications, c'est la vérification des likes sur son Snap, son Insta et compagnie. Non, c'est de la folie.
En fait, les gens, ils développent une addiction à la notification. Mais une vraie addiction, je veux dire, au sens pas.
Non, mais alors, surtout chez les femmes, quoi, tu vois. Genre,
oui.
Est-ce que, d'après vous, l'Azerbaïdjan est en deuil? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Non, hein. Non. Eh, Nathalie, tout le monde s'en branle, hein, à part nous. Tout le monde s'en branle.
Les ah non, mais ça me saoule. À...
Oui.
Les seuls qui s'en soucient, c'est pour se foutre de ta gueule.
Oh, c'est marrant. Je
allez, ouais, j'espère que sur 100 ans, ils marqueront LOL, quoi, tu vois. L'épitaphe, ouais.
Ah putain, ça, oui, je réserve. Ah ben... je réserve. Du nouvel. LOL.
Ouais, LOL.
Oh, oui, bon. Voilà, allez. Nathalie, si tu nous regardes, bah tu nous regardes pas déjà, donc voilà, il est réglé. Alors, bon, bref.
Voilà, mais donc, après une fois,
ouais.
Je peux poser une question là.
Ah bah, je t'en prie.
C'est Nathalie Psola, tu dis, hein.
Ouais, Psola, ouais, Pso.
Et ça s'écrit P-S-O-L-A.
Oh, P-S, il y a un Z paumé au milieu. Ça sent la Pologne. Ah, ben, hein.
Ah non, c'est parce que je regardais.
Ah, quand il y a des Z dans des noms imprononçables, c'est la Pologne.
Je regardais à quoi elle ressemblait, je tombe sur des films cul. Oui, il y a une bah, note Sola, sans Z. C'est des films cul.
Bon, je sais pas. Écoute.
Peut-être.
C'est vrai, c'est pas une blague.
Ah bah non, mais moi je dis rien. Qu'est-ce que tu veux, hein, c'est peut-être. En tout cas, elle aura fait sa part, hein, pour l'avènement du califat en France. Un salut amical, hein, donc, à Nathalie. Alors, messieurs, avant d'enchaîner, peut-être pourrons-nous faire un petit détour vers la spiritualité islamique. Très court, mais puisqu'on parle de l'Azerbaïdjan, je pense qu'il faut parler du monde musulman plus généralement. Des choses nous sont apportées. Alors, Derek, je sais que tu es, nous le savons tous, hein, tu es cardinal de l'église de Négrolatrie, mais tu es aussi versé peut-être dans l'occultisme musulman.
Tu peux quand même.
Ah, oui, bien sûr, mais à titre purement informatif. Alors, je
oui,
propose.
Le musulman, quand il est nègre, effectivement. Ah, c'est oui, ça, oui, bah, oui. Et... ah, des djinns. Oh, oui.
Ah, je vous ai gâté. Nos auditeurs, je suis sûr, ont envie d'en savoir un petit peu plus sur la religion de Mahomet. On écoute et on se retrouve.
Réponds-moi.
Trois.
Hein ?
Trois.
D'accord, trois. Donc vous étiez rentrés, vous, les trois, en même temps. Donc vous étiez à 10 ici, hein ? C'est ça, hein? Répondez.
Ah, à peu près.
Ah, ok, d'accord. Et vous étiez envoyé avec la sorcellerie.
Ouais, la sorcellerie maginoise.
Ok, et c'est qui a fait ça? Les proches ou quoi?
Tout près.
Hein? Réponds.
Il y en a beaucoup, frère.
Hein? Et qu'est-ce que vous étiez destiné pour quoi faire pour ce garçon?
On le voulait pour nous.
Pour vous, c'est ça.
Il était trop malin.
Pour attirer dans votre monde, c'est ça.
Il était trop malin.
Hmm?
Il était trop malin.
D'accord, khair, inshallah. Eh bien là, vous avez cramé aujourd'hui, hein. Vous n'avez jamais entendu ça, hein. Ouais, hein. Ah ben vas-y, lève le doigt et tu vas partir. Tu suis les autres. Allez, vas-y, fais shahada, inshallah. Vas-y.
Attends, j'ai un truc à dire, attends.
Quoi?
Attends.
Qu'est-ce qu'on va attendre?
Attends un peu.
Il n'y a pas d'attente. Je veux te cramer.
Non, c'est bon.
Allez,
c'est bon,
fais shahada.
Shahadu wa la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadan rasoul.
Allez, salam alaykoum et dégage.
Allez, dégage.
Sors bi'idnillah.
On se reverra.
Hein?
On se reverra.
On va se reverra.
On se reverra.
Ouais, bah, pas de problème. Avec grand plaisir. Tu viens quand tu veux. Mon ami. Tu viens quand tu veux. Moi, je te crame avant que je te vois. T'as compris? Moi, mon ami, je te crame avant que tu me vois. Toi, tu commences de me faire des chantages ici. Hein?
Pardon.
Où tu vas me voir? Tu crois que je suis un petit ici ou quoi?
Pardon.
Allez, salam alaykoum. T'as les moustaches pour que tu viennes chez moi.
Alors, monsieur spiritualité islamique, donc nous avons affaire à une colocation dans le corps d'un nègre musulman. Donc, il y a un débat pour savoir qui c'est qui est éligible et non éligible à la résidence. Qu'est-ce que vous pensez de ce désaccord de voisinage, hein, ce sont des nègres. Hein, quand même.
Oui, c'est juste de nègres. Enfin, on ne voit pas le nègre qui est planqué dans son drap, mais bon, semble-t-il que c'est un nègre. Alors, je note que le nègre qui fait le djinn a un accent de banlieue parisienne.
Enfin, oui,
c'est
oui,
marrant.
Oui.
Il a une espèce de truc, tu vois, un peu. Ouais, de banlieue, de parisien, enfin de parisien et de nègre. Alors que l'autre, donc, l'exorciste, hein, qui pratique la roquia, hein, est un nègre pur jus. Bon, c'est toujours marrant. Hein, donc, le principe de ce genre de truc, c'est-à-dire que tu as un nègre possédé qui a dû faire des conneries. Donc, on lui tourne autour en lui récitant des machins coraniques. et puis, donc, il vient te parler. Est venu me mettre, tu vois, le type qui m'a dit ça, pour faire du mal à l'hôte, hein, n'est-ce pas? Et ça finit par obliger le djinn, hein, question, à quitter le nègre, hein, comment il quitte? En faisant sa shahada, n'est-ce pas?
Shahada, oui.
C'est-à-dire qu'il reconnaît Mahomet comme étant le prophète et Allah...
son messager.
Oui, non.
Non, c'est l'inverse. Oui,
Mahomet, le messager d'Allah. Voilà. Bref. Bon, c'est rien de nouveau sous le soleil, mais c'est vrai que c'est toujours assez marrant à voir. C'est mise en scène de singe. Hein,
oui.
On connaît un petit peu nos auditeurs, peut-être... les plus alertes connaîtront peut-être Ben Ali Abderraouf, hein, qui est un grand pratiquant de cette technique.
Savant.
Qui a permis de convertir énormément de djinns, de nègres, si vous emmerdez, que vous n'avez rien à faire. Cherchez Rokia Islam Supranala sur Google Vidéo, vous allez voir, c'est sympa.
Alors, si vous voulez approfondir peut-être vos connaissances sur le Coran, comme tu le dis souvent, hein, Google, le Coran guérit.
Oui, le Coran guérit, les miracles du Coran, une carotte qui ressemble à un organe, enfin bon. Allons-y.
Miracle du Coran.
L'oiseau qui dit Allah. C'est quand même un gros truc de bouillot.
Alors moi, j'aimerais quand même savoir qui touche la CAF dans cette histoire de cohabitation.
Tout le monde. Enfin, ça reste des Français, je pense. Hein, ces gens, hein.
Tiens, en parlant de Coran alternatif ou continu, Nathalie a des choses à nous dire là-dessus. Oh mon Dieu, bref. J'avais vu une vidéo là-dessus, c'était en Arabie Saoudite, c'était filmé. Enfin, c'est une vidéo, oui, c'était filmé par définition, oui. Mais ce que je veux dire, c'est c'était filmé en bord de mer. Il y avait une tempête, il y avait des vagues qui se... Hein, c'était sur un port, et il y avait une espèce de vieille arabe en train de faire des incantations face à la mer. Vous voyez. Et puis tout d'un coup... J'avais même pas vu, quoi. Elle sort une chèvre décapitée à la balance à la flotte.
Ouais, mais c'est vrai.
Et alors, les bouillous, les délavanales, le Dajjal. C'était une sorcière en Arabie Saoudite en train de lancer des sorts, je sais pas quoi. Oh là là, c'était... Ah, mais le monde islamique est riche.
Le monde bougnoulique, j'ai envie de te dire.
Bougnoulique, nègre, mais tout ça est un espace qui communique et qui communie. Hein.
Bah, l'ajout de la variable nègre, c'est un excipient.
C'est tout à fait.
Hein, ça épice la chose.
Ouais, j'en ai vu une autre de vidéo d'exorcisme. Alors, c'était aussi pratiqué sur un nègre, mais c'était un bougnoul qui pratiquait. C'était très impressionnant. Parce qu'à un moment donné, le nègre a pris une voix. Mais en fait, tu voyais que c'était que la voix venait du cinéma. Il a pris une voix très très grave. Avec un accent d'Île-de-France, il s'est mis à faire le démon. Enfin, c'était vraiment ridicule. Et je me demande s'ils y croient vraiment, en fait.
Alors, nous avons quand même affaire à des gens qui entendent les voix d'Allah pour poignarder des Français au coin des rues. Hein.
Ouais, je parlais du nègre.
Oui, nègre, arabe, tout ça, c'est un peu pareil, hein, quand même. Hein.
Parce que le nègre a un côté comédien.
Oui, ça reste des gens à bas QI qui sont majoritairement psychopathes. Donc,
Alors par contre, comme on dit, ils sont pas tout seuls dans leur tête. Donc l'histoire d'avoir des colocations avec de la shahada, etc., c'est totalement raccord. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout étonnant. Hein. Ces gens sont pas tout seuls. Hein. Enfin, l'arabe moyen, ou l'algérien moyen, le sénégalais moyen, il est pas tout seul dans sa tête. Hein. Ils sont plusieurs à louer. Hein. Faut quand même le savoir. Et en plus, parmi les colocataires, ils sont pas tous lunés de la même façon. Il y en a qui sont plus ou moins agressifs. Hein. Et ça vous donne des désagréments. Donc, Fofana poignarde la mamie du dessous. Hein. Et quand on interroge Fofana, c'est plus Fofana. Hein, c'est Mamadou. C'est Mamadou qui répond. Et Mamadou, il dit, je sais pas. J'ai pas compris, je sais pas. Ah oui, non, vraiment.
Une autre personne s'est emparée
de moi. Oui, c'est
emparée de moi. Et décapité du couffard à l'appel.
Non, mais c'est vrai. C'est dans les faits divers, il y a des tas d'histoires comme ça. Et voilà, en fait. Hein. Donc là, ce qu'on a entendu avec l'histoire des djinns, non, c'est simplement des dingues. Enfin, c'est des nègres, des bougnoules totalement frappés, schizo, camés, souvent. Qui sont dans le délire, quoi. Qui sont dans le délire. Et c'est là que, quand même, l'euthanasie, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Euthanasie nègre.
Oui.
Oui. Massivement.
Oui.
Ouais, il souffre, c'est vrai que...
Écoutez, si on assassine des Français... à naître dans le ventre de leur mère qui n'ont rien fait, on peut assassiner des nègres, enfin guérir.
Oui.
Ah ouais.
Des nègres possédés par les djinns, n'est-ce pas? Hein? Bon. Enfin voilà, donc c'était le moment science. Pour les gens qui nous écoutent.
Science. Alors, et spiritualité.
Science et sapience.
Science et sapience, exactement. Camille Séba, bonjour.
Non, mais arrête.
Avec-ils leur papier?
Bonne question. Le nègre français, Fulbert, c'est automatique. D'ailleurs, même s'il n'avait pas de papier, il serait français.
Quoi qu'il en soit, le papier...
Plus que toi, c'est belge.
Le papier s'est fait à partir du bois qui vient d'Afrique. Donc les papiers que vous avez, là, c'est le droit des Africains.
C'est le droit des Africains.
C'est le doigt des Africains.
messieurs, rubrique suivante, les saluts de la semaine. Alors, là, je dois le dire... c'est particulièrement révélateur. C'est une photo. Malheureusement, on ne peut pas la communiquer à nos auditeurs. C'est une photo, mais c'est une photo qui représente, en fait, comment dirais-je, une espèce de spot publicitaire qui se situe à hauteur d'homme, qui est d'une très bonne taille, hein, il faut bien le dire. Ça se situe à Paris. Et je la décrirai quand même pour nos auditeurs, bien sûr. Elle se décompose en deux parties, en fait trois, mais deux grandes parties, c'est-à-dire un bandeau supérieur, un bandeau inférieur, le bandeau supérieur étant de couleur violette, le bandeau inférieur étant de couleur jaune, avec au centre une espèce de pastille. Sur la partie violette est inscrit, sont inscrits les mots suivants. 20 juin 1242, brûlement du Talmud à Paris, place de l'Hôtel de Ville. Et dans la partie jaune, au-dessous, 12 janvier 2020, rallumons la flamme du Talmud au dôme de Paris. Et dans le cercle blanc qui se situe au milieu donc, de ce visuel, très grand, hein, je le répète, donner une idée de la taille, mais on est sur quand même quelque chose de l'ordre de 2 mètres sur 4, un parmi d'autres, hein, nous avons un sceau qui représente la maison de Rothschild avec le lion de David et des inscriptions en hébreu. Donc c'est très clairement un message qui est adressé bien sûr aux Français de Paris, à la France en général, et c'est une revanche hein, contre la France de Saint-Louis. Et pour donner plus de données à nos auditeurs, qui ne sont pas forcément versés dans les questions historiques, mais ils vont le découvrir, c'est une allusion au procès du Talmud qui avait été décidé par Saint-Louis, roi de France, monarque, un des plus grands monarques de l'histoire de France, et je vous la livre sur la base de ce que peut nous en dire le site Bibliothèque de Combat, citant lui-même l'ouvrage de Jean Drault, intitulé « Histoire de l'antisémitisme ». Voici ce que l'on apprend. Saint-Louis, sous son chêne, voulut rendre la justice à tous, même aux Juifs. Pourquoi sont-ils donc tous si détestés, se demandait-il. Peut-être en écrivit-il au pape à ce sujet. Ce pape, Grégoire IX, qui s'était posé la même question, lui conseilla de faire examiner le Talmud. Ce que Louis IX fit. Il convoqua les rabbins à une assemblée présidée par Guillaume d'Auvergne le 24 juin 1240. La cour y assistait avec la reine Blanche. Prélats et clercs des diocèses voisins avaient tenu à assister au débat. Bernard Lazare, donc, ce qui est un historien juif qui revient sur les faits, donne les noms d'un des rabbins qui vinrent défendre le livre saint du judaïsme, à savoir le Talmud, Yehiel de Paris. On laissa discuter ces saints hommes aussi longtemps qu'ils le voulurent. Bernard Lazare affirme que, dans ces controverses qui eurent lieu à diverses époques et dans différents pays, les rabbins étaient autrement plus subtils, adroits et forts que leurs adversaires chrétiens, du moins habituellement. Il n'empêche qu'en l'occurrence, Yehiel fut obligé de reconnaître que le Talmud ordonnait aux Juifs des pratiques fort préjudiciables aux non-Juifs. Qu'ils fussent chrétiens ou païens, c'est-à-dire donc non-chrétiens. Dans ce capharnaüm de lois pénales et hygiéniques, de racontars obscènes et scatologiques, d'apologues enfantins ou cyniques, les prélats présents durent découvrir sans enthousiasme que les Juifs comparaient les églises à des cloaques, que Jésus-Christ était en enfer, et qu'il avait été le fils adultérin d'un soldat romain nommé Pandara. Le roi, Saint-Louis, après ce débat, proclama qu'on ne pouvait pas discuter avec des gens pareils, c'est-à-dire avec les Juifs. Et Joinville lui prête ce langage. Alors là, c'est en vieux français. « Nuls, s'il n'est très bon clair, ne doit dépoucht à ans. Mais li homlet, quand il entend médire de la loi chrétienne, ne doit pas défendre la loi chrétienne, ne met l'épée de quoi il doit donner parmi le ventre dedans, tant comme elle peut y entrer. Autrement dit, il faut tuer les Juifs. » Le vieux guerrier franc parlait encore chez Louis IX. Que les statues pieuses de Saint-Sulpice représentent si infidèlement, avec une allure de jeune sous-diacre tout frais et moulu du séminaire. Bernard Lazare tira parti de cette déclaration énergique, donc de la part du monarque, l'appelant hein, à assassiner les Juifs perfides, pour innocenter cette prescription du Talmud, que je vous livre, le meilleur des goïms, tue-le. Effectivement, c'est un propos qu'on retrouve dans le Talmud au Moyen-Âge. Aux époques barbares et guerrières, selon lui, donc selon Bernard Lazare, qui essayait de disculper donc ses frères de race, il n'est question que de tuer son adversaire, et les rédacteurs du Talmud, dont certaines parties sont très anciennes, ont parlé finalement comme Saint-Louis. Le malheur est que le Talmud ne met pas de date, et qu'on apprend encore dans les écoles israélites contemporaines que tuer le nom de juif est un exercice, dans certaines circonstances, qui est agréable à Jéhovah. Pet Liura s'en est aperçu, Von Rath, donc l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, assassiné par, comme vous le savez, comment on s'appelait
Greenspan.
Greenspan a découvert aussi effectivement que Jéhovah aimait parfois que certains gommes se fassent assassiner. Voilà, hein, que, donc c'était une pratique qui était courante. Alors messieurs, passage donc de l'histoire de l'antisémitisme. Saint-Louis n'a pas goûté les conclusions de l'étude du Talmud et a appelé à tuer, appelé les chrétiens à assassiner, et vous savez que ceux qui portaient les armes à cette époque-là étaient les chevaliers, à assassiner les juifs qui oseraient tenir des propos du Talmud en place publique. Alors évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque, mais l'esprit du Talmud, je crois, prévaut encore. Qu'est-ce que vous avez à m'en dire? Qu'est-ce que vous avez à me dire de ce phénomène? D'autant que, visiblement, les Juifs, parce que la conclusion de ce procès du Talmud avait été de les incinérer en public, après avoir entendu de telles insanités contre la religion des Français et contre la morale publique, avait été de brûler ce livre. Eh bien, 8 siècles plus tard, nous découvrons que la France est toujours, et plus encore, sous la férule totale des Juifs, et qu'ils célèbrent ce qu'ils appellent le rallumage de la flamme du Talmud.
Alors comment ces juifs ont-ils rallumé la flamme du Talmud? Je pose la question. Je remarque que le brûlement du Talmud... Hein,
alors j'ai bien envie de ramener des flammes avec des histoires de Talmud, mais pas tout à fait comme les juifs l'entendent.
Oui. Alors, disons que le... Ce Talmud a été brûlé à deux pas de
Notre-Dame de Paris.
À deux pas de Notre-Dame de Paris. Et le Talmud se rallume sur les cendres encore chaudes de Notre-Dame.
Exactement. Voilà. Mais est-ce que
des gens qui ont de la suite dans les idées. Hein,
je voulais vous dire une chose. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu cet incendie de Notre-Dame de Paris, j'ai ici, dans cette émission, cité un ministre de Netanyahou qui se félicitait de cet incendie en citant précisément le procès du Talmud en disant que c'était une vengeance divine contre la France. Vous vous en rappelez?
Oui, c'est donc c'est les Israéliens orthodoxes qui sont nos alliés.
Nos meilleurs alliés face à la Perse. Perse d'ailleurs qui vient de perdre un soldat assassiné, nous allons en parler. Et comme le disait d'ailleurs la conclusion du procès du Talmud, il plaît beaucoup à Jéhovah de faire tuer l'égoï.
Oui.
8 siècles après. Aussi.
Donc, à l'époque, ils avaient une conception assez différente de celle que nous avons actuellement du judéo-christianisme. Voilà, donc... Moi, je rends hommage à ce bon roi Louis IX.
Alors moi, quand je vois ça, si vous voulez, effectivement, tu as raison de le pointer du doigt, quand je vois ce magnifique affichage qui dit, voilà, nous allons ramener les... rallumer la flamme. Alors attention, parce que là c'est un mot adressé au rabbin. Attention avec les termes rallumer la flamme du Talmud. Dans certaines oreilles.
On pourrait mal comprendre.
Oui, voilà, on pourrait mal comprendre.
Moi je dis, c'est très bien. on va faire des barbecues. On va brûler des trucs sympas.
Alors, donc voilà des gens qui veulent donc rallumer les flammes du Talmud, peut-être sur les cendres de Notre-Dame de Paris. Mais tous ceux qui nous parlent de judéo-christianisme, là j'ai envie de dire, les rabbins n'ont pas l'air tellement branchés. Alors, judéo, beaucoup, christianisme, un peu moins. C'est visiblement Saint-Louis, qui est quand même un des plus grands. Tous les cathos qui nous écoutent, pas nécessairement, parce que ceux qui nous écoutent en général sont bien orientés, mais il y a beaucoup de cathos de gauche à la con, ou pire, Eugénie Bastier. Renie pas Saint-Louis, enfin c'est pas possible quoi. Enfin, elle est pas papesse, donc je l'imagine pas décanoniser Saint-Louis. Donc je pose la question. Est-elle rabbiniquement correcte? Parce que au terme du judéo-christianisme, et si j'en crois les affichages auxquels procède donc la race de Satan qu'on appelle les Juifs en plein Paris aujourd'hui. le 12 janvier 2020, appelant à rallumer la flamme de l'espoir, si ce n'est la flamme olympique, donc du Talmud, Saint-Louis est une ordure, il a fait brûler le Talmud. Comment se peut-il qu'un saint de l'Église catholique, roi de France par ailleurs, puisse brûler le Talmud et être en même temps un saint de l'Église catholique? Voilà une énigme que Berglio devrait résoudre, et là, je pose la question.
Eugénie Bastier,
réponds.
Si vous nous écoutez, rejetez-vous Saint-Louis qui considère les juifs comme des bêtes?
Réponds ou tu passes à la question. À vous tes crimes.
C'est ce bon roi Saint-Louis, très bon roi, bien sûr. Moi,
c'est, tu c'est couches un... avec des Ashkénazes, nous le savons, nous le savons.
Il avait aussi institué un magnifique... il aimait beaucoup les... je sais pas, les artisans, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le port de la Rouelle, hein, c'est le bon roi Saint-Louis qui avait instauré ça. Donc,
L'incroyable arrogance de ces juifs. Voilà des gens... Alors, imaginez, alors, ils sont furax, hein, 8 siècles après.
Enfin, déjà, tu parles de démons.
Oui, de démons à forme humaine, oui, effectivement.
Cette race maudite.
8 siècles après, ils sont encore furax parce que 4 bouquins ont été cramés en place de grève, hein, voilà. Imaginez comme ils en ont après le maréchal Pétain et l'Allemagne. Et la race blanche.
Et oui, surtout, je vais dire, et les blancs. Quoi.
Voilà, donc, pour ceux qui se reconnaîtront d'eux-mêmes, là, qui nous parlent de judéo-christ, ça n'a jamais existé. Quand la France était catholique, elle traquait cette cinquième colonne qu'on appelle le judaïsme. Donc, arrêtez de nous raconter des flûtes, c'est bidon. Voilà. Non, ils veulent nous voir crever.
Et elle ferait bien de le faire. Elle ferait bien de continuer à le faire. Hein, parce que ces gens-là ne...
Alors du coup,
oui.
Nos alliés contre l'Iran.
Bah, j'ai envie de dire nos alliés pour la gloire de l'Occident.
Oui, pour la. Ah oh bah ils nous aiment tellement, ils nous aiment.
Ils aiment les blancs.
Alors je veux avoir le grand rabbin de France sous ma supervision. L'interroger. Rabbin, que pensez-vous du grand roi Saint-Louis? Dites, nous vous écoutons. Faut l'interroger comme ça. Faut lui demander. Qu'est-ce qu'il pense du grand roi de France Saint-Louis? Je pense hein, qu'un exorcisme, on en a parlé à côté, c'est de la blague. Là, vous allez voir ce corps rachitique, mais goitreux, avec ses poils de barbe, ce torse sous l'effet de la torture, rien que d'évoquer le saint nom du grand roi de France, arrête de ce vieux guerrier français. Vous allez voir la face tordue de Corsia. Avouez sa race, avouez enfin à qui il a fait allégeance, c'est-à-dire à Satan en personne. Il y a du boulot, messieurs, il y a du boulot.
Je voudrais poser une question à mes amis français. Dites-moi, les corps des rois de France sont enterrés à Saint-Denis, c'est ce que je dis, mais c'est dans la cathédrale.
Ouais. Ouais,
c'était avant que justement les frères maçons du temple et de la synagogue n'entreprennent de les déterrer pour avoir fait Saint-Office face à la synagogue, justement.
D'accord, ouais. Donc la cathédrale brûle. Et ici, on parle de réparer le brûlement du Talmud.
Alors non, Fulbert, c'est pas la même cathédrale. Les rois étaient enterrés à la cathédrale de Saint-Denis.
Saint-Denis. Alors on a viré les rois de France. Maintenant, les juifs, ils mettent des nègres clandestins. C'est pas pareil.
Voilà, Saint-Denis, la cathédrale, donc la nécropole des rois de France, c'est la ville dont on a parlé la semaine dernière dans le courrier de notre auditeur. C'est le chiotte du Mali, hein, pour situer
c'est ça. Le Niger aussi un peu.
Oui, c'est là où les nègres viennent déféquer, tout à fait...
Permets-moi de cracher quand même un petit peu sur Mélenchon et ses députés qui prennent toujours...
Coquerel
qui prend toujours
une tête bizarre, hein, Coquerel.
Oui, qui est toujours en pointe quand il s'agit d'occuper la basilique de Saint-Denis. Alors ça, c'est systématique. Saint-Denis, dont on a parlé, la nécropole des rois de France.
Nécropole.
Oh là là, beaucoup parlé, hein. Alors, Fulbert, du coup, t'avais une interrogation, tu disais... Alors, donc, il y a une distinction, hein. Basilique des rois de France, ça, c'est Saint-Denis. La cathédrale de Notre-Dame de Paris, bon, bah, ça, c'est très clair. Quelle était ta... Qu'est-ce que tu voulais...
Non, mais j'avais fait une confusion entre les deux endroits, c'est pour cela. Mm-hmm. Et je demandais confirmation si c'était bien le même endroit, là où les rois de France étaient enterrés. Quoi.
Alors, elle n'est pas encore cramée, la basilique, mais enfin bon, ça ne saurait tarder. Je présume.
Ah, quoi. Oui.
Enfin, non. Transformée en mosquée. Ça arrive, pour les Français qui nous écoutent, ça arrive. Saint-Denis est totalement repeuplé, on en a parlé la semaine dernière, on le prend à l'humour comme ça, parce que bon, il faut bien le prendre d'une certaine façon, mais c'est comme le disait l'auditeur qui vit sur place, c'est une ville qui est à 90% repeuplée par des métèques du monde musulman, c'est une catastrophe.
Saint-Denis va connaître le sort de Sainte-Sophie.
C'est, exactement.
En plus marron.
Oui, en plus marron. Donc attention, c'est très très grave ce qui se passe, c'est très très grave. Donc quand on voit Coquerel, etc. Vous savez, les Français actuellement, il n'y aurait pas la sécurité sociale. Et le SMIC, il y aurait des choses qui se passeraient dans les rues de France. Hein. Je vais vous le dire.
Les Français. Il n'y aurait pas la CAF.
Il n'y aurait pas la CAF non plus. Donc l'état social, vous voyez, ça endort les gens. Et je n'oublie pas que je prépare un second procès du temps.
Mon cher Gandalf, me permets-tu de parler d'un petit événement historique?
Oui.
Un peu léger, voilà. Parce qu'en fait, on parle de beaucoup de traditions, de rebrûler le Talmud, pourquoi pas, pourquoi pas imposer à nouveau le port de la Rouelle, moi je n'y opposerai pas. Mais il y avait une tradition qui existait en France, en fait, depuis le 8e siècle. Parce que vous savez que pendant les différentes guerres en fait qu'on a eues avec les Sarrasins, les Juifs en fait ils ont joué sur les deux tableaux. Voilà. Donc en fait c'est à la fin, ils ont livré les villes de Béziers, Narbonne et Toulouse en trahissant finalement les Occidentaux. Hein. Déjà à l'époque.
Encore.
Ouais, c'est bizarre. Hein. Et en fait depuis ce moment-là, c'est une tradition qui a duré depuis pendant un certain temps quand même. Il y avait une magnifique tradition. J'aimerais beaucoup que ce soit remis au goût du jour. C'est-à-dire que le jour de Pâques, avant la procession. Avant, on mettait un juif mauvais, donc j'ai envie de dire un juif tout court, devant la cathédrale comme exemple. Et souvent, c'était un chevalier qui prenait en fait le juif et qui lui adressait un, deux ou trois gros soufflets devant la porte de la cathédrale pour montrer bien au peuple la perfidie de cette race.
Un soufflet,
je pense
c'est
qu'à
un...
Béziers, oui, c'est un gros Robert Bénard gifle. Ne fera pas ça, hein. Les choses ont changé depuis. Hein.
Alors c'est une grosse gifle, et donc c'était codifié, hein. Selon la perfidie du juif en question, en fait le chevalier pouvait revêtir un gant plus ou moins volumineux, voilà.
Alors moi je l'aurais pris clouté, moi le gant. Clouté, tu vois, avec des... Bah, bref. Ah non, mais Ménard, Béziers.
Donc voilà, pour ça peut dire le judéo-christianisme, tout ça, bon...
Oui. Réécriture, quand tu nous tiens.
Voilà. Les juifs sont spécialistes dans la réécriture de l'histoire.
Quelqu'un d'autre sur ce... Oui, cet appel de la croix On n'entend pas le même, visiblement. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Mais... Je pense que Saint-Louis est beaucoup plus proche de nous, quand même, que des autres.
Ces juifs ont quand même le culot de foutre ça sur des grands panneaux énormes en plein Paris. Bon, la plupart des gens s'en foutent, il faut le dire.
Bah, le bétail. Hein.
Quoique j'ai vu sur Paris quand même cette semaine qu'il y avait encore des gens qui dénonçaient les étrangers qui judaïsaient dans les rues sans en déclarer.
Ah oui, tu fais mention de Rachida Dati qui se plaignait de fait qu'on vienne dénoncer les juifs par chez elle.
Oui, tout à fait. Donc, il y a encore à Paris les voisins vigilants qui sont soucieux du bien commun.
Ah bah d'ailleurs, mais ça je lance un appel, hein, si vous avez des adresses où des juifs se rassemblent en secret pour judaïser, donnez-les nous, on les fera connaître. Hein.
Oui. Une carte en France des synagogues clandestines.
Ah oui.
Où les juifs.
Et ce sera une activité sainte.
Des goïms,
ce sera une activité sainte placée sous le patronage de Saint-Louis.
Si Saint-Louis était vivant là, comme ça, en 2020, à votre avis, est-ce qu'il serait plus proche De Gaulle Nadel ou de démocratie participative?
Je crois avoir un début de réponse.
Voilà.
J'ai aussi la fin de la réponse.
La mais fin, se termine par une épée.
Exit Saint-Louis. Hein. Bon. Alors, discussion de cette semaine sur l'Iran. Sujet polémique. Il y a plusieurs approches très factuelles, ou alors au contraire, on peut aborder ça en fait sur un des aspects de la question. C'est selon ce que vous voulez. On est bien obligé d'en parler parce que quand même ça a défrayé la chronique pendant 10 jours. Je pense qu'on va en reparler. La crise s'est atténuée, mais les problèmes de fond restent là. Est-ce qu'il y a un angle sous lequel vous voulez aborder la question en particulier?
Moi, j'ai un angle sur lequel j'ai envie qu'on n'aborde pas la question, en fait.
Vas-y.
Le côté un peu, entre guillemets, complotisme, quoi, genre, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'avion, tout ça, bon, c'est un peu... En fait, on saura jamais trop, donc si on peut éviter, genre, de mettre vraiment les pieds dans le plat là-dessus...
Bah déjà, c'est pas très intéressant, pourquoi?
Oui,
parce que finalement, c'est...
Parce qu'on sait rien, quoi.
Oui, déjà, et puis c'est le détail du... Enfin, c'est le détail. C'est le détail de l'histoire, permettez-moi cette analogie, mais c'est un détail. Enfin, je veux dire, incompétence, bon... l'Iran a reconnu être responsable. Bon, est-ce qu'il pourrait y avoir une explication alternative? C'est-à-dire que l'Iran préfère dire que ça relève de l'incompétence parce que peut-être que quelque chose d'autre s'est passé. Je vais vous donner de la matière à réfléchir. Attention, hein, parce qu'on parle de complotisme. Donc, Pierrot, tu dis il faut pas être complotiste là-dessus, etc. T'as raison.
Ouais, c'est un mot valise hein, pour aller.
Non, mais t'as raison. Je veux dire, bon. Moi, je pars du principe que si les autorités iraniennes reconnaissent le truc, il faut partir là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas la peine d'élaborer, mais il faut quand même savoir que dans un conflit dont l'ampleur, parce que c'est un conflit d'une ampleur géostratégique très importante, en réalité, à cause de l'énergie, du pétrole et du gaz dans le Golfe, que ce soit en Arabie Saoudite, en Iran et en Irak, hein, qui sont les principaux fournisseurs des très grandes économies mondiales, à l'exception des États-Unis. Donc on est quand même sur quelque chose, un terrain très miné. Ce n'est pas un conflit mineur, je sais pas, comme le Venezuela, même si là aussi il y a du pétrole. Là on est vraiment au cœur, c'est un nœud gordien, comme on dit. Alors sans vouloir entrer dans des explications complotistes, moi je ne dirais pas, voilà, j'ai l'explication alternative, c'est celle-là, etc. Donc je m'en tiens à l'explication donnée par les autorités iraniennes, à savoir l'incompétence. Bon, voilà, c'est ce qu'ils disent, ceci étant dit, je me réserve quand même le droit Je me ménage une zone de doute, si vous voulez. Je me réserve intellectuellement une zone de doute en me disant il y a peut-être autre chose. Et finalement, les Iraniens préfèrent accepter la thèse de l'incompétence plutôt que de dire on s'est fait pirater notre système de défense. Parce que au final, c'est ça. Au final, c'est ça. C'est... Parce que quand même.
Ce qui serait possible, enfin, on va rappeler que peut-être.
Je veux dire un truc. Le système de défense en question, tel qu'il est présenté, c'est quand même des systèmes très sophistiqués. Il était installé près de l'aéroport. Ils disent, oui, on a cru que c'était un missile de croisière qui venait vers nous, mais en fait, ça ne tient pas la route parce que c'était un avion qui décollait. Donc, c'était un avion qui s'éloignait de l'aéroport et non pas un objet qui venait de loin et qui venait vers l'Iran. Donc, les explications de la part des autorités iraniennes pour dire « on s'est trompé » sont assez bancales. Dire on s'est planté, ça peut être une façon de dire non, en fait les Américains ou les Israéliens ont pénétré notre système de défense et l'ont retourné contre nous pour nous envoyer un message. Alors je dis pas que c'est ça,
oui. Mais
je dis que ça, ça me paraît pas totalement invraisemblable, si vous voulez. Et à ce moment-là vous dites ouais bon, vaut mieux dire qu'on s'est planté plutôt que de dire on n'a pas de défense antimissile en fait.
Et bon, entre autres, ce qui pourrait laisser penser, ce qui peut suggérer que cette hypothèse a une certaine validité, c'est que bon, c'est la rapidité et le avec
Oui, ils ont mis
laquelle
3 jours.
les ouais, ils ont, je sais pas s'ils ont commencé même à analyser boîte noire parce qu'ils les ont récupérés et il a été dit de suite avant que juste après qu'ils aient accepté le fait de recevoir des experts de Boeing. Le lendemain, ils ont sorti donc effectivement oui il y avait une erreur une erreur humaine hein, apparemment de leur part. L'hypothèse que tu évoques d'un piratage de leur système, ça rappelle, enfin on peut penser à ça quand on sait ce qu'il y a eu avec le virus Stuxnet hein, il y a une dizaine d'années maintenant. Un virus Stuxnet, pour les jeunes qui connaîtraient peut-être pas, c'était un virus élaboré par les services américains et israéliens pour infiltrer pour saboter les centrifugeuses pour enrichir de l'uranium. Donc ça
En
a
Iran,
pété pas mal de. En Iran, en même temps. Enfin, pas qu'en Iran, parce que je crois que ça bon, après, ça a été, le truc c'est un petit peu barré ailleurs, quoi. Mais au départ, effectivement, c'était pour toucher l'Iran et ça a saboté, ça a fait péter pas mal de matériel iranien dans ce qui concernant le nucléaire
hein.
au début des années 2010.
Non, mais je veux dire, il faut que nos auditeurs comprennent que il existe maintenant dans les arsenaux. Des arsenaux cyber et que pénétrer cybernétiquement le système adverse est part entière en fait de la guerre aujourd'hui. Alors c'est pas très spectaculaire parce que généralement c'est secret, mais ce sont des vraies possibilités. Alors je dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je n'écarterai pas a priori cette possibilité. Alors pour souligner le vice désintéressé, voici ce que nous dit un article cité par Mind Press. Ça date de janvier 2019, et vous allez voir, on va découvrir des choses. C'est un article signé Philippe Giraldi. Donc, je donne mes sources, hein. Le titre de l'article, Les chasseurs israéliens se cachent derrière des avions de ligne pour les faire abattre. Comme c'est devenu la pratique habituelle, le raid aérien du jour du Nouvel An par Israël, le jour de Noël par Israël, donc c'était à Noël, hein. C'est à Noël. Par Israël contre les cibles près de Damas a été largement ignoré par les médias américains. Étant donné qu'Israël a bombardé la Syrie plus de 200 fois, l'attaque elle-même, qui a fait 3 morts parmi les soldats dans un entrepôt, n'a pas été particulièrement notable. Mais ce qui était significatif, c'est le fait que c'était la deuxième fois qu'Israël utilisait d'autres avions pour masquer l'approche de ses propres avions de guerre vers la cible. À cette occasion, les masques consistaient en 2 avions de ligne civile effectuant leurs approches vers les aéroports de Beyrouth et de Damas. Heureusement, les forces de défense aérienne arabe syrienne ont pris la décision de retarder le déploiement des missiles sol-air et du brouillage électronique pour éviter une tragédie. Et le contrôle du trafic aérien a pu dérouter l'un des avions donc un des avions civils atterrissant à Damas vers l'aéroport militaire de réserve de Hmeymim. Dans le sud de Latakia. Donc, les équipages antiaériens syriens ont réussi à intercepter et à abattre 14 des 16 missiles entrants qui avaient été lancés par 6 avions de guerre F-16 israéliens à l'aide de bombes de petit diamètre GBU-39SDB de fabrication américaine guidées par GPS. Si les défenses aériennes syriennes avaient été plus imprudentes et avaient poursuivi les F-16 eux-mêmes, elles auraient pu frapper un avion de ligne par erreur et des centaines de vies auraient pu être perdues. Le ministère russe de la Défense, qui a pu reconstituer l'attaque à partir d'images radar, a condamné l'incident, déclarant que les actes de provocation de l'armée de l'air israélienne ont mis en danger 2 avions de passagers lorsque 6 de leurs F-16 ont effectué des frappes aériennes sur la Syrie depuis l'espace aérien libanais. L'annonce laconique de la Russie révèle qu'en plus de mettre en danger des centaines de civils, Israël a commis plusieurs crimes de guerre dans son action, dont le gouvernement israélien a prétendu qu'elle visait à détruire une cargaison de roquettes Fajr 5 de fabrication iranienne qui serait en route vers le Hezbollah. Alors, messieurs, simplement pour ajouter à la discussion quelques éléments, l'armée de l'air israélienne n'hésite pas à se placer dans le signal d'avion de ligne pour procéder à des approches de bombardement en Syrie, quitte, et même sciemment,
à mettre en danger les avions civils.
Voilà, les avions civils.
Alors, c'est ce qu'on appelle l'armée la plus morale du
monde. Rêve du monde, voilà. Alors,
et des boucliers humains, quoi.
Alors, juste. Attendez.
Les juifs là.
Attendez, juste.
Vas-y.
Juste une chose. Alors, évidemment, ce n'est pas nouveau de procéder à des approches en se plaçant dans le sillage d'un objet volant ou d'un objet flottant. Par exemple, pour les sous-marins, c'est très connu que beaucoup de sous-marins se placent sous des navires, qui des gros navires, des tankers, etc., pour procéder à des approches. D'accord, très bien. Mais c'est très différent de procéder à une attaque en se plaçant à proximité d'un avion de ligne pour attaquer un pays officiellement souverain, en sachant qu'il va y avoir une réplique, en exposant cet avion de ligne, donc en sachant que vous allez faire potentiellement des centaines de morts, et je pense que c'était même le but recherché. Donc là, on est dans complètement autre chose. Et là, la doctrine de l'armée israélienne l'admet totalement. C'est ça le truc. C'est faisable, et ils le font.
Permets-moi de rappeler que ces patriotes français de droite israélienne sont les premiers à venir pleurer à la télévision française ou dans les médias sur Internet pour dire à quel point Israël, Tzal, est l'armée la plus morale du monde, hein, bien entendu.
Meilleur ami.
Parce que les sales palestiniens
lancent des cailloux.
Lancent des cailloux et utilisent des boucliers humains. Oui, non mais oui.
Ah.
Les Palestiniens ils utilisent des boucliers humains, bien entendu.
C'est très subtil en fait.
L'avion israélien, il utilise un avion de ligne rempli de goyim, tu vois. Là, c'est le principe de la moralité selon les juifs. Hein. Là, nos auditeurs peuvent mesurer, c'est quantifiable. Hein. Un arabe qui utilise un autre arabe. Pour se protéger par rapport, pour pas qu'on te tire dessus, en gros, ça va. Un pilote israélien...
Non, ça va pas, tu veux dire, un arabe
qui utilise un autre arabe, ça va pas. C'est immoral, par contre, un juif qui utilise 150 goïms, qui met en danger 150 goïms...
C'est moral.
Oui, c'est, ça non, va. C'est normal. Voilà, donc... Ces gens-là sont
nos meilleurs alliés. Alors non, alors ce que je veux dire, hein, je suis pas en train d'expliquer que c'est ce qui s'est passé en Iran. Hein. Je le dis pas, c'est pas ce que je dis. Donc je reviens à l'origine de la discussion. Dans la mesure où les autorités iraniennes ont dit que c'était dû à une incompétence, et soyons honnêtes, que certains pays orientaux de confession musulmane soient incompétents. Ça ne me paraîtrait pas complètement déplacé, bien sûr, à concevoir. Ceci étant dit, nous sommes dans une guerre dont une partie est visible et dont une grande partie est secrète. Les déstabilisations s'enchaînent. Que ça se produise la même nuit que les frappes iraniennes, qui ont été un grand succès, parce que ça, les gens n'en parlent pas. Parce que ça, c'est la... Je vais peut-être le dire vite fait. Parce que ceux qui disent « Ah bah oui, mais c'est des Iraniens, c'est des Brels. » Alors, je dis pas que les types sont... Les mecs sont des cadors, ils maîtrisent tout, etc. Hein. J'écarte pas du tout l'incompétence. Hein. Mais les services secrets israéliens, la presse israélienne, la plus honnête, on va dire, du point de vue israélien, qui a analysé les retombées de l'attaque par missile de l'Iran, qui était une réplique à l'assassinat du général Soleimani, ont dit, sans détour, c'est une frappe dont la maîtrise est très impressionnante. Très impressionnante, et ça leur pose de graves problèmes, et c'est d'ailleurs ce que dit cette presse, ils disent, il y a la politique, évidemment, on enrobe, on fait plaisir aux Américains, mais pour la sécurité d'Israël, on a un vrai problème. Les Iraniens maîtrisent extrêmement bien leurs missiles, pratiquement au mètre près. Donc la conclusion, on va dire, des esprits indépendants qui ne sont pas dans la communication en Israël, c'est de dire on a un vrai problème, les Iraniens ont très nettement progressé dans la maîtrise de l'arme balistique. Alors, ça tranche avec l'incompétence dont on parle par rapport au système de défense utilisé, qui est un système russe, le TOR, TOR M1, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est tout à fait possible, mais encore une fois, l'excuse utilisée du missile qui approche alors qu'on est à côté d'un aéroport international, que les Iraniens ont bien donné l'ordre de ne pas faire voler d'avion, qu'un avion commence lentement à décoller, bon, ces systèmes sont quand même très sophistiqués, ils savent quand même distinguer un missile à grande vitesse d'un Boeing, normalement. Bon, je pense, si vous voulez, que, à mon sens, hein, y a des choses qu'on ignore. Bon, voilà. Après, bon, bah, je me rallie à ce que disent les autorités iraniennes, hein. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi, par évidence, donc je ne vais pas dire que ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu. Enfin bon, voilà. Alors, ceci étant dit, alors, enfin, t'avais dit, Pierrot, qu'il fallait pas être conspirationniste, sur ce truc-là, t'as raison, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de faire observer certaines choses, mais tu as raison, faut pas être conspirationniste.
En fait, la plupart des infos qu'on a actuellement, on
les bah, c'est des bribes, hein.
Et on a, je sais pas, peut-être oui, qu'on a un tiers des infos,
on
quoi.
On les a par des agents de presse qui ont bien sûr eu.
Ah, voilà.
Oui, non, je veux dire, médias, on a un tiers des infos. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont fausses, on ne sait pas. Et puis, il y en a les deux tiers qu'on ne saura jamais ou dans 20 ans, quoi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi.
C'est ça. Alors, messieurs, nonobstant, donc c'est incident parce qu'en plus, en fait, alors.
C'est pas crucial.
C'est pas crucial.
Le sujet fondamental, finalement, ça va être le nucléaire iranien que bah, maintenant, du coup, ils ne vont pas s'arrêter et qui va générer bah, des conflits dans quelques semaines, quelques mois, de manière inévitable. Ça va être le sujet crucial.
Oui, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En fait, ce drame aérien qui s'ajoute à d'autres nombreux drames aériens, finalement, permet un peu aux États-Unis de mitiger. La situation en disant bah voilà médiatiquement de mettre la pression aux autorités iraniennes en disant bah rendez des comptes, bon bah raison hein, je veux dire il y a eu des morts donc mais en fait c'est totalement périphérique par rapport à ce dont il est question. Est-ce que vous avez quelque chose que vous c'est toute cette question iranienne en fait ces 10 jours là de pression vraiment très très forte hein. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez aborder le problème ? Est-ce qu'il y a un angle en particulier qui vous paraît plus pertinent qu'un autre pour aborder ce problème-là ? Ou qui vous intéresse, vous, en particulier ?
Bah, moi, j'ai noté là ces derniers jours, dans les médias américains, enfin, en tout cas, par rapport, je vais revenir sur la neutralisation de Soleimani, par Donald Trump, pour avoir un petit peu feuilleté là, donc la presse américaine, semble-t-il que Mike Pompeo, qui est, qui est en charge
la diplomatie, oui, quoi.
De la diplomatie et pas que. Hein,
bah, il a été ancien directeur de la CIA et formé par la CIA.
Voilà, quoi. Donc il va sûrement avoir un pied dedans, voire plus. Ça fait bien une dizaine d'années que le type, c'est son obsession de tuer Soleimani. Donc il y a eu de témoignages autour de ce type-là. Il avait pour but de se retirer, même, enfin, dit, tant que je quitterai pas le service, enfin, oui, le service auprès de l'État. Je ne quitterai pas le service auprès de l'État tant que j'aurai pas neutralisé Soleimani. Bon, ben là, d'ailleurs, je crois qu'il ne se représente plus aux prochaines élections. C'est ce qui a été annoncé, en tout cas.
Ouais.
Et donc, il va quitter la vie publique, il va partir à la retraite hein, sur cette action-là. Il y a ce type issu de la CIA, état profond. Les néoconservateurs qui poussent depuis
20 ans.
Au moins 20 ans.
En fait, depuis la révolution de 79, en fait, hein, en réalité.
Oui. Bon,
ça, en fait, c'est ça, c'est ce qui s'est passé.
Les néoconservateurs, c'est plus récent quand même. Hein,
c'est beaucoup plus récent, mais on va dire que ça se base sur une rancœur qui est très solidement établie aux États-Unis dans l'appareil d'État depuis en fait l'expulsion des États-Unis de l'Iran en 79. Alors pour le coup, par les islamistes chiites. Oui. Alors là, il y a une chose, il y a peut-être un clivage sur lequel il faut quand même insister. Parce que bon, il y a une facilité, je veux dire, en Occident, mais bon, ils ont tous des mosquées, ils ont tous des barbes, des turbans, ben, c'est tous des bouilloules, c'est bien la même chose. Alors, si c'était la même chose, l'État islamique n'aurait pas pondu un communiqué pour se féliciter de la mort de Soleimani, en disant que c'était un véritable miracle divin offert par Allah. Pour la cause des musulmans, Dixit, hein, ça c'est cette semaine dans leur publication. Donc si les djihadistes de l'État islamique se félicitent de la mort de Soleimani, et si Al-Qaïda aussi s'en félicite, ce n'est pas un hasard, et ça veut dire que, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est-à-dire que le monde musulman n'est pas monolithique. Et en fait, et ça c'est très important à comprendre, pour les sunnites, qui sont les musulmans auxquels nous avons affaire en Europe, pour ainsi dire, tout le temps. Hein. Je veux dire, c'est les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Soudanais, les Afghans, tous.
Même les nègres,
tout ça, c'est des sunnites. Ces gens-là considèrent que les chiites, c'est-à-dire essentiellement les Iraniens, ne sont plus musulmans. Ils les considèrent comme des hérétiques. Et sachez une chose, c'est qu'au terme de la loi islamique, c'est moins grave d'être un chrétien ou un juif, que d'être un hérétique, c'est-à-dire quelqu'un qui, non, d'après
un apostat plutôt, d'ailleurs.
Ouais, un apostat. Oui, mais un hérétique aussi. Oui, non, c'est
un hérétique de fait, mais surtout un apostat, ouais.
Non, mais si, l'hérétique, c'est celui qui pratique la division. La division, c'est de fait... Enfin, celui qui pratique la division, c'est de fait un apostat. Donc, ça revient au même, quoi.
Voilà, et en islam, l'apostasie, l'hérésie... C'est la peine de mort.
Ouais.
Donc en fait, il faut que nos auditeurs comprennent que les chiites, qui représentent environ 10% de ce que nous considérons comme le monde musulman, démographiquement, sont, au terme de la loi islamique sunnite, passibles de la peine de mort. Donc ils sont éligibles au génocide. Donc on ne peut pas comprendre la posture des chiites si on ne comprend pas dans quel environnement culturel et religieux ils se situent. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une minorité qui se sent assiégée. Et quand l'État islamique... Alors, ça va que c'est des Perses. Comme c'est des Perses, ils ont du sang arien, en partie, pas en totalité, bien sûr. Ils ont été considérablement orientalisés, mais ils ont du sang arien. Ça leur donne un avantage organisationnel considérable... face à la merde bédouine qu'ils affrontent, qui sont des incapables notoires. Mais ils sont éligibles à la peine de mort collective, donc au génocide. Et c'est ce qu'avait annoncé l'État islamique. L'État islamique, la grande campagne, moi je peux en parler, je l'ai suivi de près, sur Internet, en 2014, quand les comptes de l'État islamique pouvaient émettre en toute liberté sur Twitter. Les gens ne le savent pas, ça, beaucoup ne le suivent pas. Je suivais les meilleurs comptes de l'État islamique, des gens qui étaient sur le terrain, vous aviez des combattants, des djihadistes qui étaient en Syrie, qui étaient en Irak, vous pouviez suivre l'avancée des troupes. C'était des gens qui ne parlaient pas des juifs, c'était des gens qui ne parlaient pas des chrétiens ou des croisés, ils n'en parlaient absolument pas. Leur obsession, c'était l'éradication des chiites. C'était le seul motif. Et ça fait le lien avec un autre point, j'en parle brièvement, avec Bandar Ben Sultan, qui est un prince saoudien extrêmement influent, qui a été ambassadeur de l'Arabie Saoudite auprès de George W. Bush quand il était président. C'est un ami personnel de George W. Bush, c'est quelqu'un qui a été, enfin qui a rencontré Jean-Yves Le Drian encore en 2013, etc. C'est quelqu'un qui a dit à des amis britanniques, ça a été rapporté par la presse, la plus sérieuse, c'est quelqu'un qui a dit « Le temps des chiites au Moyen-Orient est révolu, nous allons y mettre un terme ». C'est quelqu'un qui tenait des propos génocidaires en privé devant un public occidental. devant les plus hautes autorités occidentales. C'est quelqu'un qui disait, voilà, notre projet à nous, c'est de génocider les chiites. Parce que pour eux, ce ne sont pas des chiites, ou je sais pas, ce sont des hérétiques, point barre. Donc ils veulent assassiner ces gens-là en masse. Et c'est un projet qu'ils partagent avec les juifs, les Israéliens ou les juifs établis en Occident. C'est le même but, d'accord ? Alors évidemment, quand on est en Europe et qu'on subit l'assaut des bougnoules, on n'est pas versé dans ces subtilités, oui, on sait pas.
On voit des gens marrons, voilà, qui vont à la mosquée. On se dit, tiens, putain, c'est comme les Algériens là, qui sont en bas de ma rue,
voilà,
qui vendent du shit et qui violent ma sœur. En gros, hein,
c'est voilà, ça. C'est ça. On dit, oh, bah, tout ça, c'est bien la même merde, il faut leur botter le cul. J'aimerais que ce soit aussi simple. Mais c'est pas aussi simple. Parce que vous avez un facteur important que sont les États. Et vous avez l'État saoudien, vous avez l'État israélien, vous avez l'État américain, vous avez ensuite vous avez des organisations internationales, l'OTAN, etc. Vous avez... Donc ce n'est jamais monolithique. Et puis c'est ça que je veux dire, c'est pas manichéen. Et personne n'est blanc-bleu. Ouais, tout le monde joue avec, oui, tout le monde.
Tout le monde joue. Fait des alliances,
bien sûr.
Avec l'un, avec l'autre, selon le temps.
Voilà.
Soleimani et les chiites d'Iran, qui sont là, donc à couteau tiré avec les États-Unis et en arrière-plan Israël. Lorsque il y a eu l'invasion de l'Irak par George W. Bush donc en 2003, donc pour faire. Comment dire, pour abattre le pouvoir de Saddam Hussein, hein, donc le parti bassiste de Saddam Hussein, ces milices-là, enfin, oui, les troupes de Soleimani, donc les gardiens de la révolution, ont collaboré avec les Américains pour se faire les chiites, quoi. Donc ils sont venus.
Non, pour se faire les chiites.
Pour se faire les sunnites. Donc ils se sont dit, bonjour, on vient, salut, on vient aider. Bon, une fois qu'ils étaient là, après, c'était pas la même histoire, parce que ça restait quand même des Américains, et qui considéraient qu'ils n'avaient pas leur place ici, faut se comprendre. Hein,
oui, alors parce que, toujours pour nos auditeurs, évidemment, l'Irak, sous Saddam Hussein, qui a été conquis par les Américains en 2003, Saddam Hussein était sunnite, et c'était avec lui les tribus sunnites qui dominaient politiquement le pays. Mais un pays qui a majorité chiite, en plus du Kurdistan, kurde. Donc c'est une zone très compliquée, on va pas rentrer là-dedans, mais les Kurdes, il y en a en Syrie, il y en a en Irak, il y en a en Iran, et il y en a en Turquie.
Erdogan, au Liban aussi.
Il y en a aussi au Liban. Vous avez remarqué, je pense, qu'Erdogan n'est pas très fan des Kurdes indépendantistes. Vous avez remarqué, c'est pas sa tasse de thé exactement, hein. Quand Trump faisait la cour aux Kurdes en Syrie pour faire chier Bachar al-Assad, Erdogan a fait comprendre qu'il en avait plein le cul, il a envahi la Syrie, Trump a dit « je retire mes troupes ». Donc c'est un merdier. L'Iran a des Kurdes, et avec les Turcs, ils partagent cette même appréhension face aux Kurdes, et pour pas parler de l'Irak, etc. Donc c'est un merdier, et... Ce n'est pas une histoire nouvelle aussi. Il y a aussi un truc que je veux quand même souligner. Parce que certains pourraient être tentés de nous dire, donc toujours dans l'idée, voilà, oui, mais les bougnoules, premièrement. Et puis ce coup-ci, on y va. Voilà, on y va, on fonce, etc. Je l'ai dit, il y a des États qui sont acteurs. Et puis, ça fait 20 ans que les Américains sont au Moyen-Orient.
Voilà, non, mais il y a les États et puis il y a la réalité tribale au sol. C'est-à-dire que déjà, aussi, les Américains, ils y sont depuis 20 ans, ils sont morts de les doigts. Hein, il faut quand même rappeler des chiffres, hein, quand même. Hein, il y a eu plus de 5000 morts en Irak, Irak-Afghanistan, américains. Donc des blancs, hein, des bombes blancs de souche majoritairement germanique. Ils sont allés se faire calibrer pour on sait pas trop quoi. On sait pas trop.
Alors on sait pour qui, mais pas trop pourquoi.
Oui, on sait pour qui, effectivement, pour que des gens soient en sécurité et ne se reçoivent pas d'excuses sur la gueule, effectivement. Oui, ça on sait. C'est un bourbier. Et l'Iran, c'est 4 fois plus gros. Enfin, je crois que c'est au moins. Hein, comme...
C'est 4 fois plus grand que l'Irak.
4 fois plus grand que l'Irak. Hein,
et 2 fois plus peuplé. Ouais.
Avec des reliefs, des montagnes.
Et la grande différence, c'est un massif montagneux, l'Iran.
Voilà. Ouais. Donc c'est pas plat. Tu arrives pas avec les 4x4. Hein, tu te déploies pas. Ouais, tu te déploies pas aussi facilement, quoi. Donc non, c'est pas on a des drones et tout, etc. On va faire les beaux. Tu le fais. C'est ce qui avait été fait. C'est comme ça qu'on nous avait vendu l'Irak déjà hein, à l'époque. Et oui, on va bombarder en 6 mois, c'est réglé. Effectivement, ils ont remplacé le monde. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as dans le cul. Quoi. Tu l'as dans le cul. Ça fait 20 ans qu'ils l'ont dans l'os. Que ce soit sous des présidences avec des républicains, des gens de droite, hein, n'est-ce pas, ou Obama ou même Trump. Bon, Trump, dans une mesure, il récupère les restes hein, de ce qui a été fait auparavant. Mais est-ce que le résultat est positif au final?
Non.
Non, pas du tout. Pas du tout. Puisque bon, au final, c'est l'Iran qui a pris le. Qui a pris l'ascendant dans cette région-là, et qui d'ailleurs a fait donc des.
Pour des raisons logiques, hein, pour des raisons logiques. Oui, en fait, la majorité de la population.
Démographiquement, ils sont majoritaires, ils ont le soutien de la population. Donc bon,
disons qu'il y a des tensions. En Irak, disons, quand les Irakiens ne veulent pas être gouvernés directement par les Iraniens, mais ils partagent la même religion qu'est le chiisme, donc le même sentiment d'être menacé par les sunnites, un sentiment très réel, puisqu'on a vu ce que donnaient les sunnites radicalisés. Donc. Et c'est ce qu'a stoppé Soleimani. C'est-à-dire que Soleimani, c'est un général qui venait d'Iran pour ralentir, stopper les radicaux sunnites armés par l'Arabie Saoudite, la Turquie, la CIA et Israël, alors qu'il se dirigeait vers Bagdad. Donc c'est lui qui a sauvé les chiites de Bagdad du génocide. C'est ça que les gens, voilà, je leur demande pas d'aduler évidemment Soleimani, en Europe, des blancs, bon voilà, mais il faut, si on se met dans la peau des gens du coin, on comprend que Soleimani est un héros. Ce mec-là les a sauvés du génocide, et c'est pas une vision de l'esprit. C'était vraiment ça qui était en cause, quoi. J'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est l'État islamique. Donc, comment voulez-vous que les gens sur place réagissent quand on assassine le général qui les a sauvés de l'État islamique? Imaginez-vous, vous êtes en France, les bandes djihadistes de l'État islamique, comme on peut en trouver en tôle, là, tous les guignols. Bon, heureusement que c'est des guignols, et puis que, bon, bah, dans l'armée française, les services de sécurité, on a des mecs solides, mais imaginez, je sais pas, un coup de folie, on les contrôle pas, et tout d'un coup, ils prennent le pouvoir, je sais pas, en Normandie, en Provence, machin, puis ils se mettent à appliquer leur programme.
À Roubaix.
Voilà, c'est l'assassinat systématique. Imaginez, tout d'un coup, il y a un mec qui arrive, c'est un Gaulois. Voilà, catholique, il vire tous les djihadistes et il sauve la population. Comment voulez-vous que les gens le considèrent? Je veux dire, ce mec est un héros. Nonobstant les reproches qu'on peut faire à l'Iran, c'est pas du tout le truc. Les mecs en Irak, les chiites et les chiites en général d'Irak, considèrent ce mec comme un héros. C'est celui qui a évité le carnage. Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut. Donc, il faut pas s'étonner qu'ensuite, t'as des millions de types qui se pointent pour ses funérailles, en disant « ce type nous a sauvés ». Et Trump a fait ce coup-là, parce qu'il faut quand même en revenir, il a fait assassiner, et on a vu que Trump n'a pas eu d'explication. Il a eu 40 explications. Il a dit « ouais, ce mec, il a tué des millions de gens ». Ça a été la première explication. Il a dit « Soleimani a tué des millions de gens ». Alors c'était un peu gros quand même. Bon, je sais que c'était le reproche qu'on avait fait à Adolf Hitler. Hein. On a dit voilà, oui. Pourquoi avez-vous assassiné? Il a tué des millions de gens. Alors à l'époque il n'y avait pas Internet. J'aurais été curieux d'avoir des smartphones à Auschwitz.
Selfie devant la piscine.
Voilà, je pense qu'on aurait, l'histoire n'aurait pas été écrite de la même façon, je pense. Alors bon, bien sûr, on aurait vu des juifs avec des ampoules dans les mains, hurlant à la mort, mais quand même, on n'aurait pas vu ce qu'on nous a dit qu'on a vu. Alors, on nous refait le coup, bon, on sent qu'en 24 heures, c'est dégonflé, hein, Soleimani, des millions de morts, bon, oui, bon. Ensuite, il enchaîne, plein d'explications, il dit, oui, mais en fait, alors, il y a 48 heures, oui, il voulait attaquer 4 ambassades. Ah bon, lesquelles, quand, comment? Pas d'explication. Alors, parce que c'est un vrai merdier aux États-Unis en ce moment, puisque l'opinion publique l'opposition politique, enfin tout le monde demande des comptes. Ils disent bon, attendez, vous avez dit, vous nous avez amené à la limite de la conflagration. Vous avez dit que c'était une menace imminente. La moindre des choses, c'est de nous apporter les preuves que c'était vraiment imminent. Et la réponse, oui. La réponse récente,
il y a eu Pence, hein. Il y a quand même Mike Pence, le vice-président.
Il y a eu toute une série d'explications et Mike Pence
qui est allé sortir. Que oui, non, mais en fait, Soleimani était responsable du 11 septembre.
Quoi. Voilà.
Oui.
Non, imaginez, donc, on a tout eu, c'est-à-dire il y a des millions de morts. Bon, ça prend pas. Le 11 septembre, ça prend pas. Les ambassades, donnez-nous des éléments. Il n'y a pas d'éléments. Et au final, j'ai vu ça, là, on a demandé ça à Pompeo. On a dit, bon, alors, imminence, comment vous définissez ça? On ne savait pas quand ni où. Donc c'est imminent, mais on ne sait pas quand. Dixit, les propos des plus hauts responsables du renseignement américain. Ça, c'est maintenant. Alors, du coup, alors, il n'y a pas de sympathie pour Soleimani, il n'y a pas de sympathie pour l'Iran. Aux États-Unis, mais les mecs disent attendez, vous nous amenez dans une situation de crise extrêmement grave.
Sans passer par le Congrès. Hein,
sans passer par personne, et quand bon, vous demandez des comptes, il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments. Donc, quand tu vois les des gens qui disent ouais, faut y aller, on réfléchira après, non. Alors, aux États-Unis, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, en tant qu'Européens, parce qu'il faut bien, c'est ça que je veux dire, nous, en tant qu'Européens, on ne peut pas avoir la même approche. Parce que nous, c'est à nos portes. Les Américains, il faut voir ça, les Américains sont sur une île. Ils ont deux grands océans pour les protéger. Ils peuvent jouer les cow-boys et tirer dans tous les sens. D'accord? Ils en ont rien à foutre. L'Amérique est le continent le plus sûr de la planète. Donc ces gens-là s'en fichent. Ils peuvent déclencher des guerres à droite, à gauche, tirer dans tous les sens, entraîner des millions de morts. Ils s'en foutent, ça ne les affecte pas. Nous, c'est pas la même histoire. On a... un passif maintenant, avec ces guerres inspirées par les juifs néoconservateurs au Moyen-Orient. À chaque fois, c'est un drame. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, ça met au pouvoir les islamistes. L'immigration déferle vers nos frontières, parce qu'à chaque fois, ils viennent vers chez nous. Ils vont pas vers l'Arabie Saoudite, hein. Ils vont pas vers Abu Dhabi, ils vont systématiquement vers l'Europe. On a le droit de dire, à un moment donné, l'Amérique, ça suffit.
Sans compter, Gandalf, tous ceux qui sont déjà, en fait, la petite colonne de mecs qui sont déjà, en fait, chez nous et qui, pour des raisons X ou Y, vont pas être contents de la décision géopolitique de la France si jamais on s'avance trop et qui vont se faire péter, quoi, tout simplement. Dans un camp ou dans un autre.
Ouais.
Oui, c'est vrai que dites-vous bien que s'il y a des gens bizarres qui sont là à vous vendre ces guerres-là, hein, parce que des... Bon, est-ce que des blancs ils se faire tuer en Orient pour
oui, ça c'est un point important, oui.
Hein, c'est... Bah, dites-vous bien qu'à chaque fois, le résultat, c'est qu'aucun arabe de France ou d'Europe ne rentre dans son pays de merde. Par contre, il y en a plein, que ce soit des arabes ou des nègres, qui arrivent. Hein, la guerre juive de Libye, hein, parce que bon, Bernard-Henri Lévy a posé quand même le sceau de la synagogue sur cette intervention.
Il a dit la guerre est déclarée à l'Iran.
Oui, non, ça, à l'Iran. Mais non, rappelons un petit peu ce qui s'est passé avant en Libye ou en Syrie, depuis que ces pays-là ont été. Oui, bon, l'État islamique, déjà, c'est une chose, mais enfin, vraiment, c'était surtout la Libye, avec Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. Nous avons un flot continu de nègres qui remontent par la misère, et ce sont des flotteurs. Hein, ils flottent, ils arrivent, ils migrent, il y a des courants.
C'est pas comme si on ne savait pas, quoi.
Ah oui, non, mais on le savait, on le sait. Mais non, mais y a, apparemment, des gens ont oublié. Hein, c'est pour ça que je me permets de faire ce rappel. Que des gens ne se rendent pas compte. Hein, je sais pas. Hein, peut-être qu'ils vivent pas forcément dans le sud. Ils voient pas passer des trucs dans la frontière à Ventimille. Ils voient pas des nègres qui débarquent sur les autoroutes. Ça n'existait pas, ça, avant qu'on aille. Que les juifs nous disent d'aller en Libye parce que Kadhafi est méchant. parce qu'il va tuer son peuple, hein, on le sait. Ou alors, et pareil en Syrie, parce que bon, ça arrive du sud par Lampedusa, ça remonte par l'Italie, ça revient par la France. Ça passe aussi par la Syrie, et puis Erdogan, selon son humeur, utilise ça en fait comme levier, enfin, oui, utilise ça comme un élément pour
moyen de pression, avec moyen de pression, quoi.
Oui, moyen voilà. Pression, moyen de pression. Donc, ça arrive à flot discontinu par la Turquie quand le sultan ouvre les vannes. Donc oui, non, on a rien gagné là-dessus. On n'a rien gagné. C'est pour ça que c'est nos amis qui vont faire protéger les frontières, par exemple, à droite à gauche, hein, ils font des actions. J'espère qu'ils auront la bonne idée de se dire que oui, si ces frontières-là, il y a des nègres qui arrivent, c'est parce qu'il y a eu des éléments, des interventions en Libye, en Syrie, qui ont fait que des gens marrons arrivent.
Hein, ces
marrons n'arrivent pas par hasard.
Il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Ah bah, pardonne-moi, Fulbert, tu voulais prendre la parole ?
Oui, non, je voulais simplement dire une petite chose, un petit rappel, puisque c'est vrai que d'abord, les gens oublient très vite, vu comme je l'ai dit tout à l'heure, la masse d'informations qui passe. On oublie très vite le passé récent, mais je voulais rajouter ceci à ce que disait Derek, c'est qu'en plus le sultan qu'il invoque, là, Erdogan, rappelez-vous, récemment, il commence à commencer à placer des troupes en Libye, justement.
Oui. Oui, alors,
il a annexé toute une partie de comment ça s'appelle ? De l'espace maritime chypriote et grec,
ouais, ouais.
Pour faire un couloir jusqu'à la Libye
la Méditerranée en deux, c'est tout, voilà.
Ben pour couper la Méditerranée en deux, et puis pour avoir la main sur les entrées migratoires sur l'Europe, c'est-à-dire
bien
qu'il
sûr.
Va tenir à la fois la partie qui la frontière avec la Grèce, les îles, etc. Et donc par l'est de l'Europe et par le sud. Donc ça va être en gros, voilà, il se prépare à faire du chantage costaud.
Mais d'ailleurs, je voudrais rappeler un petit truc, c'est que cette idée d'une géostratégie d'invasion musulmane par le sud et par l'est, on l'avait invoqué il y a très longtemps maintenant, ça devait être l'année passée ou l'année d'avant, on l'avait déjà évoqué une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez.
On l'a évoqué à plusieurs fois, pas à plusieurs reprises, je veux dire.
Sans doute, oui. Mais enfin, on l'avait été, dans une émission, on l'avait bien développé, en rappelant qu'il y avait eu deux grandes voies d'invasion, à des moments différents, mais que notre époque était plus sensible, parce que ces deux voies s'ouvraient en même temps. Et le déplacement d'Erdogan en Libye ne laisse rien présager de bon.
Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être conséquent. Parce que être dans la réaction pure, il y en a marre des bougnoules, c'est compréhensible, mais ça ne permet pas de comprendre, de progresser dans la compréhension de ce qui se passe. Donc, si on reste dans la pure réaction, on se condamne soi-même à ne pas dépasser sa propre condition, en fait. Vous allez être un perpétuel protestataire, en fait. Donc, il faut percer plus loin. Et ce qu'on essaye de faire comprendre ici, c'est que, en fait, il y a des causes. Alors, il y a des causes qui sont des causes de fond, le débordement démographique durable de l'Afrique et de l'Orient. Bon, bah ça, c'est dû à toute une série de choses, notamment le bouleversement de la colonisation, dont nous sommes responsables, bien sûr. Mais à chaque fois, nous sommes responsables. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous déstabilisons notre environnement extérieur. Quand je dis nous, c'est un nous collectif, mais en réalité, ce sont les élites occidentales qui sont, en fait, assez stupides. Et là, on s'est vu imposer toute une série d'interventions en Afghanistan, auxquelles la France a participé, l'OTAN aussi, l'Irak, la France n'y a pas participé, mais s'est raccrochée à une mission bilatérale à la fois de coopération avec le gouvernement irakien fantoche mis en place par les Américains et avec la lutte anti-djihadiste, mais en fait, djihadisme, c'est le pompier pyromane, quoi. C'est-à-dire que c'est les Français, les Britanniques, les Américains ont essayé d'éteindre l'incendie djihadiste entre l'Irak et la Syrie après l'avoir allumé pour déstabiliser Bachar al-Assad. Tout le monde fait semblant de ne pas comprendre, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Et puis surtout, on ne parle pas de l'énergie. Pourquoi, en premier lieu, est-on parti fourrer son nez dans cette affaire-là? Parce que les Américains ont dit qu'il fallait y aller pour sécuriser l'État d'Israël. Ça, c'est très bien renseigné. Le projet pour un nouveau siècle américain, vous trouvez ça sur Wikipédia, c'est dire. Missing Links, je vous invite à regarder ce documentaire qui est présent sur YouTube. Missing, donc M-I-2-S-I-N-G, Missing Links, L-I-N-K-S, c'est-à-dire que c'est le chaînon manquant hein, du 11 septembre qui a été le point de départ de toute cette campagne de guerre américaine au Moyen-Orient, et on découvre que les Juifs sont à tous les étages, que c'est un projet d'expansion judéo-américain au Moyen-Orient, dans lequel le lobby juif et israélien joue un rôle clé. Et donc, c'est l'origine. Et il y a eu la guerre d'Afghanistan, on y a été entraîné, l'Irak, on n'y était pas, mais on y a été raccroché. Et puis ensuite, la question énergétique, bien sûr, car il s'agit de contrôler l'énergie. Et on voit quoi? On voit qu'il y avait... Les Iraniens voulaient exploiter leurs propres ressources avec leur gazoduc et l'acheminer vers l'Europe en passant par la Syrie et la Méditerranée. Et on voit que la CIA a dit non, que les Juifs ont dit non. Eux, ils voulaient empêcher l'Iran de vendre son énergie à l'Europe. Et donc, ils ont proposé une alternative en passant par le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie et la Turquie. Tiens, tiens, que des sunnites dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, il y a une cohérence. Et c'est ça la racine de la guerre en Syrie. La guerre en Syrie, c'est pas la démocratie, comme nous vend ce sale juif de BHL. C'est la suprématie énergétique, non seulement pour contrer l'Iran, mais pour contrer la Russie, dont on ne parle pas. Car les Juifs et leurs fantoches américains ne veulent pas d'un rapprochement euro-russe. Et c'est tout l'objet de cette guerre énergétique. La meilleure preuve, le gazoduc Nord Stream 2, courant Nord 2, parce qu'il y a le courant Nord 1, qui est un gazoduc déjà, numéro 1, et le gazoduc numéro 2 qui vient de la Russie vers l'Allemagne. Le numéro 2 a suscité des sanctions récentes de la part de Trump contre l'Allemagne. Donc, l'Allemagne n'est pas bienveillante à l'égard des Américains? Si, bien sûr. Pourquoi ils les sanctionnent à ce moment-là? Parce qu'ils achètent de l'énergie auprès des Russes, et alors c'est leur liberté. Si on raisonne selon les termes éthérés de la démocratie, si l'Allemagne est un pays libre, il est libre de contracter des accords commerciaux, notamment énergétiques, avec la Russie, si ça lui chante. Ben non. Les États-Unis prennent des mesures et des sanctions économiques. Tiens, tiens, ça fait écho à ce qui se passe en Iran. Tiens, tiens, ça fait écho à ce qui se passe en Irak, où on apprend que les États-Unis vont prendre des sanctions économiques contre ce pays. Pourquoi ? Parce qu'il a dit démocratiquement et souverainement par son parlement qu'il ne voulait plus de troupes américaines sur son territoire parce qu'ils assassinaient des héros de guerre qui les avaient libérés des djihadistes les plus fous de l'État islamique. Ah, ça marche plus. Ben c'est bizarre, les États-Unis prennent des mesures contre un parlement qui serait souverain, qu'ils ont installé, permettez-moi de le rappeler, qui ne tolère pas qu'on assassine leur héros de guerre. Sur quel sujet? L'énergie. Il y a quand même une cohérence, je veux dire. Et à chaque fois, ça vise l'Eurasie. Donc, qu'on arrête de nous prendre pour des cons avec cette histoire... Parce que j'entends ça, dire, ah oui, mais quand même, les Iraniens, ils pendent des homosexuels. Alors, quand vous intéressez au cas en question,
alors,
en plus...
Oui.
Voilà, non, mais juste...
Oui.
Alors, d'abord, c'est pas tous les homosexuels, c'est les cas les plus détraqués où les mecs sont surpris en train de violer des gamins de 12 ans. Enfin, c'est à chaque fois des dossiers complètement... Bon, ben, voilà. Et ensuite, si c'était vraiment ça le critère, c'est bizarre, les États-Unis n'ont pas encore placé de sanctions économiques contre l'Arabie Saoudite. où on coupe, où les femmes adultères, on les lapide, les voleurs, on leur coupe les mains, les PD, ils sont foutus en taule ad vitam aeternam, voire assassinés, etc. Là, il n'y a pas un mot, il n'y a pas d'histoire, ah oui, mais quand même, l'Arabie Saoudite, la menace pour la liberté, alors que ces gens-là, en Arabie Saoudite, financent les djihadistes, financent les mosquées radicales en Europe. Ce sont les plus radicaux parmi les radicaux. Comment se fait-il qu'on ne dit rien à ces gens-là et qu'on nous dise que l'Iran, alors qu'on n'a pas d'immigration chiite en France, on n'a pas de gens-là, on nous dit que ces gens-là sont la menace. On nous prend pour des cons. Et qui nous prend pour des cons ? Les juifs.
Oui, les juifs et leurs affidés hein, de la droite juive française en l'occurrence. On a quand même un argument particulièrement ridicule que j'ai vu ces derniers jours, qui était de dire oui, non, mais vous souhaitez votre meilleur pion au Moyen-Orient, donc ça serait donc une théocratie islamique. Oui, alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre au Moyen-Orient que des théocraties islamiques ? Enfin, moi, j'aimerais bien savoir.
Oui.
Donc on se dit peut-être, tiens, ces gens-là qui ne sont pas des sunnites, les sunnites que nous avons en majorité dans nos banlieues en France, dans nos pays d'Europe, hein, on dit peut-être que tiens, ça serait sympa de jouer ces gens-là contre ceux qui sont, contre la religion et puis donc contre les intérêts de ceux qui sont chez nous. Hein, je sais pas, ça serait assez logique, je pense. Hein. Mais non, parce que c'est une théocratie, puis donc les mollahs, il y a des manifestations, il y a des étudiants qui ont des pancartes dans la rue. Et qui
en France aussi d'ailleurs, hein, mais bon.
Oui, c'est-à-dire que c'est comme si l'argumentaire, c'est comme si les étudiants de Tolbiac qui font des conférences avec un chien pour réclamer l'autogestion et le socialisme, c'est comme ça si c'était des...
Les porte-parole de la société crédible. Française. Hein, voilà.
Oui, c'est des porte-parole de la société civile. Moi j'ai un petit peu de mal avec ces arguments-là.
C'est-à-dire que moi je commencerai à prendre au sérieux ce type d'argument quand je verrai la CIA fomenter une révolution démocratique en Arabie Saoudite.
Ou au Qatar. Parce que
Qatar a une
certaine importance vis-à-vis de la France. Mais il y a quelque chose, moi, que je voulais...
Le Qatar, Fulbert, excuse-moi, Fulbert, le Qatar, c'est assez particulier, si tu veux, c'est que le Qatar est quand même très proche de l'Iran.
Pour une raison très simple, c'est qu'ils partagent le même champ gazier.
Géographique.
Voilà, exactement.
C'est proche de manière géographique, c'est-à-dire que c'est de l'autre côté, c'est dans le Golfe, c'est vraiment...
C'est que l'Iran peut carrément envahir leur pays, donc les types flippent, donc voilà.
Donc ils doivent ménager la chèvre et le chou, donc ils ont des relations avec l'Iran qui sont... il y a des accords, quoi, il y a des accords entre le Qatar et l'Iran... Et ils ne s'entendent pas forcément très bien avec les Saoudiens non plus. Donc chacun, après, ils ont leur logique interne. Hein, ils ont clamé une unicité de Allah et compagnie entre tout ce beau monde. Ce sont des sectes. Hein, ce sont des sectes qui ne s'entendent pas l'une avec l'autre.
Je dis ça parce que j'ai lu récemment, je ne saurais plus vous dire la source, que le Qatar était également wahhabite, ce que j'ignorais totalement.
Oui, dans une certaine mesure, ils accueillent aussi la tête des frères musulmans.
Oui, mais il n'y a pas que ça que je voulais vous dire. Écoutez bien, tu as cité l'Allemagne, la pression là, sur l'Allemagne pour les histoires de carburant.
Face à la Russie, bien sûr.
Oui, eh bien, l'Allemagne abrite une très forte communauté de Turcs. Mm-hmm. Et je pense que ça fout la trouille. Une sérieuse trouille à l'État allemand.
Oui.
Je vais vous donner un petit aperçu. Bon, on a compris là ce qui se passe avec Erdogan. Enfin, on sait ce qui se passe avec Erdogan actuellement et les liens, et donc ses actions en Libye, etc., son couloir méditerranéen, d'accord. Je voudrais vous parler d'une députée belge d'origine turque qui s'appelle Manyur Özdemir, qui a été députée pour le Parti Socialiste en Belgique. Et elle vient, il y a quelques jours, d'être nommée par Erdogan ambassadeur de Turquie en Algérie. Pas un de la part d'un quelconque minable politicien belge. Ben alors, ça vous donne une petite idée de ce qui pourrait se passer en Europe, que ce soit en Allemagne, en Belgique ou peut-être encore ailleurs, avec ces gens qui n'ont absolument aucun respect des pays, des sociétés qui les ont accueillis. Parce que c'est comme ça, il faut être réaliste. Quand il y a des élections en Turquie, quand la Turquie, l'équipe de football turque, remporte un match dans une coupe quelconque, on voit des tas de Turcs défiler avec des drapeaux turcs à Bruxelles. Il faut le savoir, et certainement en Allemagne aussi.
Bien sûr, bah comme en France avec l'Algérie. Alors messieurs, je veux ajouter un autre point. Donc, le message sous-jacent, c'est qu'il faut sortir des considérations morales. Le sujet n'est pas moral. C'est de la géopolitique. Et donc, la CIA, Trump, n'en a rien à branler de savoir si les PD sont pendus ou je sais pas quoi. Il est très copain avec... le gratin saoudien, voilà, il est très copain avec Erdogan, au grand dam d'ailleurs des Européens, et la CIA aussi, donc ce n'est pas le sujet. Donc déjà, ça, il faut faire une croix là-dessus, ce ne sont pas ces considérations qui comptent. Les considérations sont géopolitiques et notamment énergétiques, c'est très crucial, et c'est pour ça que j'ai mentionné le gazoduc germano-russe, vous avez bien compris que la CIA et les États-Unis ne veulent pas que les Européens et les Russes s'entendent. Donc, ils font tout pour saboter ce gazoduc, y compris en prenant des sanctions contre l'Allemagne, qui, excusez-moi du peu, est tout sauf un ennemi des États-Unis. Hein, il y a des bases américaines en Allemagne, mais ça n'empêche pas les États-Unis de prendre des sanctions. Donc ça, j'ai expliqué tout ça. J'ai expliqué aussi la guerre de Syrie. Hein, donc il s'agissait de faire passer un gazoduc sunnite du Qatar par la Syrie via la Turquie contre l'Iran et la Russie sous contrôle donc américano-israélien. Vous avez compris que le fait que Poutine soit intervenu et ait fait capoter le projet de ces gens-là ne les met pas de bonne humeur. Mais je vous donne un autre élément, cité par Le Figaro, quand même, pour paraphraser Manuel Valls. Le président iranien a annoncé dimanche, donc ça c'était il y a quelques semaines, donc, la découverte d'un nouveau gisement de pétrole dans le sud-ouest du pays qui pourrait accroître d'un tiers les réserves nationales. Les employés et la branche de prospection de la compagnie pétrolière nationale ont découvert un gisement pétrolier de 53 milliards de barils, a déclaré Hassan Rouhani dans un discours prononcé à Yazd, dans le centre de l'Iran. Il se trouve dans la province de Khuzestan et s'étend sur 2400 km², a-t-il précisé. L'Iran se classe au 4e rang mondial pour les réserves pétrolières et au 2e pour le gaz, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. En janvier 2018, ses réserves avérées de pétrole brut représentaient, selon elle, 157 milliards de barils. Donc, écoutez, faut arrêter avec les conneries démocratiques. La démocratie, c'est pas le sujet. Les Américains veulent contrôler l'énergie des autres parce que c'est un système parasitaire. Ils ne veulent pas que les Européens soient indépendants énergétiquement. Ils ne veulent pas qu'on fasse des affaires et qu'on soit alliés aux Russes. Ils n'ont pas envie que les Iraniens développent leur propre énergie indépendamment. Et ils n'ont pas envie que les Chinois ni les autres pays s'approvisionnent au Moyen-Orient avec ces sources d'énergie. Ils veulent tout contrôler. Et avec eux, leurs flics dans la région, Israël. Avec leurs cousins à la tête à Washington. Voilà. Ni plus, ni moins. Donc, la question, c'est pas de savoir... Le nucléaire iranien, là-dessus, se rajoute dans tout ça. C'est-à-dire que maintenant... Parce qu'on voit à quel point c'est pas le sujet. C'est le sujet et c'est pas le sujet. Voilà ce que je veux dire. Ça paraît un peu énigmatique ce que je veux dire, mais vous allez le comprendre. C'est-à-dire que le sujet de fond, c'est l'énergie. Le prétexte, c'est le nucléaire. Mais le nucléaire, pour les Iraniens, c'est juste une mesure de protection. Si les Iraniens ne se sentaient pas menacés, ils n'auraient pas besoin de se mettre dans de telles difficultés pour se doter du nucléaire. Je veux dire, le nucléaire, c'est pas esthétique. Si les Iraniens sentent qu'ils ont besoin du nucléaire, c'est parce qu'ils se sentent menacés. Et l'assassinat de Soleimani vient de démontrer que c'est juste. Ils sont menacés. Leur chef peut se faire assassiner. Kim Jong-un en Corée du Nord, personne va assassiner ses généraux. Et le message est bien compris par tout le monde. Donc, les Iraniens avaient signé un accord avec Obama pour ne pas nucléariser. Je pense qu'il est positif que l'Iran ne soit pas nucléaire, déjà parce que ça entraînerait une course à l'armement dans la région et ce serait catastrophique. Mais, au bout d'un moment, si vous avez des Américains qui disent on a signé un accord international avec la Chine, la Russie, l'Iran, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, et que finalement on le fout à la poubelle parce qu'on a changé d'humeur, et que, en fait, surtout, Trump est sous la coupe des Juifs comme Netanyahou qui veulent détruire ce projet pour bombarder l'Iran, on a un problème. Et les Iraniens disent, bon, quand on joue le jeu, quand on négocie un accord, les Américains changent d'avis sur pression des Juifs et nous foutent sous sanction.
Donc oui, quand, c'est-à-dire quand... qu'en fait, du point de vue iranien, il faut voir, hein, les types, je dis, bon, mais ok, mais on fait, qu'est-ce qu'on doit faire ? En gros, je dis, bon, ok, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, en fait, on ne sait pas. Juste, on vous aime pas, donc on vous sanctionne, donc démerdez-vous. Donc ça peut que mal finir, cette histoire.
Bien sûr. Donc la dynamique globale, donc quand ils signent l'accord, quand ils ne nucléarisent plus, quand tout est surveillé, les mecs, on leur dit non. Donc les juifs exigent et obtiennent de Trump qu'on remette les sanctions, qu'on casse le deal, qu'on assassine leur dirigeant. Non, c'est pas possible. Je veux dire, les Iraniens, on les met dans un corner, ils n'ont pas d'alternative. Donc voilà, donc la situation, c'est la marche à la guerre. Mais la marche à la guerre, pourquoi ? Quel est le but derrière ? Pourquoi aller chercher l'Iran ? Pourquoi vouloir absolument les déloger ? Pourquoi pas le Congo ? Pourquoi pas le Mozambique ? Pourquoi l'Iran absolument ? À cause des réserves de gaz et de pétrole. C'est ni plus ni moins que ça. Et pourquoi maintenant ? Parce que la Chine, qui progresse de plus en plus, va s'alimenter d'ici 2050 pour plus de 50%. Aujourd'hui c'est 23 à peu près pour cent dans le Golfe, mais pour plus de 50% ces réserves d'énergie viendront du Golfe. Donc c'est ça l'enjeu. Pour les Juifs, il s'agit de maintenir leur empire en contrôlant l'énergie des autres nations. Et c'est vrai face à la Russie, comme c'est vrai face à l'Iran, et ça sera vrai face à n'importe quel pays. Et alors ensuite, interrogeons-nous pour mettre quel système en place. Bah, c'est le système juif. C'est le système du pillage. Regardez ce que c'est le modèle de société juif. Vous l'avez devant les yeux en France. Vous l'avez devant les yeux aux États-Unis. Regardez ce que c'est. La société multiraciale, l'islam, etc. Regardez tous les juifs en France, toutes les organisations juives qui appellent à l'invasion islamique, qui soutiennent les musulmans, qui disent voilà la diversité, etc. C'est ça le projet juif. Le projet juif, c'est l'impérialisme juif. Vous voulez vivre dans une société comme ça, vous ? Donc quand on voit les machins, je sais pas quoi, des gens qui appellent à lutter contre le bougnoulisme chiite, etc. Mais les chiites, les mecs, ils seront très heureux si leurs frontières sont sécurisées et que rien ne vient les menacer chez eux. C'est la seule chose qu'ils demandent. Il n'y a pas d'impérialisme chiite. Au maximum, les types veulent tenir en respect leurs propres voisins au Moyen-Orient. Ce dont on n'a strictement rien à foutre. Et à côté de ça, ouais, on a un turbo-État terroriste, juif, international, qui nous écrase, nous fait envahir, tient nos finances, essaye de fomenter toujours plus de guerres, nous repeuple de migrants musulmans, nègres, machin, promeut le multiculturalisme via Hollywood, via les partis politiques démocratiques en Occident. C'est une catastrophe. C'est ça, aujourd'hui. Bon. Bah, je pense qu'il va quand même falloir que les gens qui... Enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais que les gens qui appellent à ce type de guerre contre l'Iran... soient mis face à leurs contradictions ou leur malhonnêteté. Voilà, il est quand même temps.
Oui, il y a des arguments malhonnêtes. Par exemple, moi, j'ai vu un argument, enfin, un élément qui est opposé à ce qu'on peut dire. Hein. C'est-à-dire que, les Iraniens sont allés menacer l'ambassade en Irak et donc ça justifie qu'on tue le chef de des Pazdaran. Enfin, pas des padrins d'Al-Quds. Ok, personne n'a été tué, donc il y a eu, bon, ils sont venus crier quoi autour. La même semaine, il y a eu au Kenya un Américain qui a été tué par des espèces de type venus de Somalie, pour le coup, des bons islamistes, tu vois, d'Afrique de l'Ouest, des espèces de trucs fins à gueule de tête de mort, quoi. Les gens très gentils, et qu'on voit d'ailleurs assez souvent dans les pays scandinaves, en Suède, hein, notamment.
Oui.
Donc il y a eu un mort, hein, carrément, un mort américain. Moi, j'ai pas entendu ces mêmes gens appeler à aller envahir le Kenya ou attaquer la Somalie. Hein, donc, il y a...
Les ambassades américaines, voilà, effectivement, des exemples que tu as
Oui, c'est-à-dire qu'un
cités,
soldat
mais.
américain est mort quand même, hein. C'est quand même plus grave qu'aller crier autour d'une ambassade.
Oui, voilà, puis même les ambassades américaines sont constamment harcelées dans quasiment tous les pays du Moyen-Orient, donc une de plus, une de moins, c'est juste un bon prétexte.
Voilà, donc il faut pas se laisser avoir des arguments fallacieux qu'on peut vous mettre sous les yeux, d'autant plus que vous avez de quoi. Il y a largement de quoi se mettre sous la dent pour contrer tout
Non,
ça.
mais juste pour que les gens comprennent, imaginez, là, parce que là c'est l'armée américaine qui patrouille en Irak. Imaginez l'armée iranienne qui patrouille au Canada. Comment se comporteraient les États-Unis? Je veux dire, juste pour qu'on débunk complètement la connerie ambiante. Je veux dire, bon, à un moment donné, il faut arrêter cette logique libérale, tu vois, où en gros, ça c'est cette logique démocratique que je ne supporte plus, tu vois. Les types, en plus c'est une logique de victime, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait les mecs, les Américains et les démocrates en général, c'est vrai pour les Français, enfin toutes les démocraties, les types se proclament le droit de pouvoir assassiner n'importe qui ne partage pas leur religion démocratique. Quand tu résistes à ça, et c'est vrai à l'intérieur des pays en question, c'est vrai à l'intérieur, c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout, hein. Quand tu refuses, tu dis non, non, je suis pas d'accord avec votre truc, je veux résister. On te prive du droit de résister. En fait, on te nie la légitimité à la résistance. Tout ça vient de Nuremberg. Tout ça vient de Nuremberg. C'est-à-dire que les démocraties, donc la démocratie révélée, d'essence juive, proclame qu'elle est la seule légitime à pouvoir utiliser de violence contre les autres. Si les autres résistent aux ambitions de la démocratie juive, tu es un barbare. C'est la dialectique du barbare et du civilisé, appliquée à la démocratie et aux autres États, quoi. Donc quand tu résistes, tu es un barbare. Donc c'est ça qu'on dit. Et c'est insupportable. C'est pour ça que c'est la même logique qui est appliquée à nous. C'est quand t'es un petit blanc, que tu résistes au projet démocratique multiracial, tu es un barbare. Moi j'ai toujours remarqué ça, remarquez-le aussi. L'extrême gauche bénéficie d'une très grande tolérance en France, par exemple. L'extrême droite est considérée comme le summum de la barbarie. Alors qu'en fait, on sait très bien que les mecs de droite sont en général peu violents. Il peut y avoir des gens violents, mais globalement, par rapport aux antifas c'est incommensurable. Et pourtant, l'analogie avec la barbarie est constamment. Bah, la barbarie nazie, voilà, la barbarie, le mot de barbarie, c'est constamment appliqué à nous. Et en fait, c'est appliqué à tous les opposants à ce système. Tu n'as pas le droit de dire non. T'as pas le droit de dire non. Quand les soldats qui sont envoyés par le rabbin arrivent chez toi, tu ne peux pas dire non. Le rabbin te dit non. Yahvé a prescrit. J'ai raison, tu as tort. Tu n'as pas le droit de dire non. Donc les Iraniens, ils essayent de se défendre, hein, alors que, excusez-moi, le rapport de force n'est quand même pas le même. À leurs frontières, les mecs ont dit, vous êtes des ordures, vous avez encerclé une ambassade. Je veux dire, non, mais à un moment donné, faut sortir de l'insanité, quoi. Faut sortir de l'insanité. On a besoin de se libérer de ce carcan sémitique qui étreint nos cerveaux parce qu'on ne se rend même plus compte de ce dont on parle. C'est aberrant. Il faut se libérer de cette merde sémitique. J'ai pas d'autres mots à dire. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose.
Non, je crois que ça fait une bonne conclusion,
Ça fait une bonne
Gandalf.
conclusion,
Oui,
effectivement.
il faut se libérer de la merde sémitique
Oui.
dans tous les domaines.
À la semaine prochaine, chers amis.
À la semaine prochaine.